Europe 1, 18h-20h, votre grand journal du soir, Nathalie Lévy.
Bonsoir à tous, bienvenue pour ce rendez-vous du soir. 2 heures d'infos, d'analyse, de débat, toute l'actualité, c'est avec vous jusqu'à 20h à la une ce soir. L'Italie, le pays le plus touché en Europe, habitants confinés, système de santé qui peine à faire face. Nous serons à Milan dans un instant dans votre journal, Isabelle Millet, bonsoir.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
À 18h20 en France, la réserve sanitaire est mobilisée, ça y est, pour faire face à l'épidémie de coronavirus. Appel lancé aux candidats depuis ce matin, c'est-à-dire médecins en retraite ou qui ne travaillent plus, mais également infirmiers. Comment se met en place cette réserve? Comment fonctionne-t-elle? Je poserai ces questions à Patrick Bouet, le président du Conseil national de l'Ordre des médecins. 18h30, nos grandes voix. On va notamment parler du ministre de la Santé, Olivier Véran, face à cette épidémie. Et puis, gros plan sur la campagne municipale à Paris. Avec notre sondage Europe 1 et BVA, vous verrez les enseignements qu'il faut en tirer à quelques jours à peine du premier tour. C'est parti, nous écoutons ensemble Le Monde changé jusqu'à 20h.
Vous écoutez Europe 1, il est 18h.
Oui, c'est préoccupant de tout fermer, mais si ça marche, pourquoi pas?
Les Milanais, bientôt confinés, ils profitent de leurs derniers instants de liberté. Comme en Chine, des mesures drastiques devraient être mises en place dans les toutes prochaines heures.
Alors que le monde horrifié découvre à travers les réseaux sociaux le cri de détresse d'un Napolitain qui se filme aux côtés du cadavre de sa sœur, victime du coronavirus. Aucun médecin n'a voulu s'occuper d'elle et les pompes funèbres refusent de venir chercher le corps.
En France, comment les hôpitaux se préparent-ils à un afflux massif de cas? Les médecins et infirmiers à la retraite seront donc appelés à la rescousse. C'est ce que l'on appelle la réserve sanitaire.
Emmanuel Macron s'exprimera demain à la télévision sur cette crise à 20h et ce sera à suivre en édition spéciale sur Europe 1.
Une condamnation exemplaire pour Harvey Weinstein. 23 ans de prison contre l'ex-producteur coupable de viol et d'agression sexuelle.
Cette peine est suffisamment longue pour qu'il commence au moins à comprendre ce qu'il a fait.
Et on sera en direct avec le correspondant d'Europe 1 à New York dans un instant. Et puis, écoutez. Et voilà à quoi il faut s'attendre ce soir. Et ça va faire tout drôle, je vous le dis. PSG Dortmund, Ligue des Champions, match capital pour les Parisiens qui vont devoir se motiver tout seuls, faute de supporters. Heureusement, Europe 1 est là et vous n'aurez qu'à monter le son sur votre poste de radio.
Ah oui, avec Lionel Rosso.
La Bourse de Paris, elle, a terminé encore en baisse ce soir. Moins 0,57% à 4610 points.
Bonsoir Anissa, le ciel de demain.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous. Et bien pour demain, c'est encore du gris, de la pluie et du vent pour une grande partie de la France. Sauf pour le quart sud-est. Je vous donne tous les détails à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Nathalie Lévy, Isabelle Millet.
Et tout de suite donc, on va prendre la direction de Milan, en Italie, avec ses images saisissantes. L'Italie, ses terrasses, ses habitants qui parlent fort et sa joie de vivre. Eh bien, on est très loin de tout ça aujourd'hui.
Ah oui, Mathieu Bock est l'un des rares reporters encore présents à Milan. Cette ville habituellement si vivante, trépidante même, capitale de la mode, centre économique du pays qui vit désormais sous cloche.
Bonsoir Mathieu, vous êtes en direct avec nous.
Bonsoir.
Alors Mathieu, on s'attend d'une minute à l'autre à ce que le gouvernement prenne des mesures drastiques, à savoir l'arrêt de toute activité en Lombardie et en Vénétie. Racontez-nous Mathieu, à quoi ressemble Milan ce soir ?
Eh bien, c'est une ville qui s'éteint à petit feu. Chaque heure, il y a de moins en moins de voitures sur la route, moins de piétons dans les rues, moins de cafés ouverts. Le tramway et le métro roulent à vide. Il y a bien quelques ouvriers isolés qui travaillent encore un peu sur les chantiers. Mais les agents de sécurité surveillent des immeubles vides. La ville est quasiment silencieuse, comme si elle s'apprêtait à entrer en hibernation.
Et c'est une ville donc qui s'éteint à petit feu. Hein.
À quoi est-ce qu'on peut s'attendre, du coup, Mathieu, dans les prochaines heures?
Eh bien, le Premier ministre doit annoncer s'il ferme toutes les activités en Lombardie et en Vénétie. Ce sont les présidents de ces régions eux-mêmes qui ont demandé cette mesure inédite pour enfin endiguer efficacement le coronavirus. Eh bien, cela veut dire que tous les magasins, les hôtels, les restaurants, les administrations, les lieux publics, les transports en commun, tout sera fermé, à l'exception des supermarchés pour permettre aux habitants de se ravitailler de temps en temps et aux pharmacies. Une mesure radicale qui va faire des ravages dans l'économie, mais indispensable pour ces Milanais.
Je suis agent immobilier et cette mesure nous préoccupe beaucoup, car le marché va en prendre un sacré coup et nos ventes vont inévitablement s'effondrer.
Nous, les Italiens, on est des Latins, comme vous, les Français ou les Espagnols. Donc on a plus de mal à se discipliner que les Chinois. Mais leur exemple n'est pas mauvais, il fonctionne. Alors oui, c'est préoccupant de tout fermer, mais si ça marche, pourquoi pas?
Alors quelques secteurs essayent tout de même d'échapper à ce shutdown. Les grandes entreprises industrielles négocient en ce moment même le maintien de certaines activités stratégiques qui restent encore à déterminer. Le gouvernement a d'ailleurs débloqué une enveloppe exceptionnelle de 25 milliards d'euros pour faire face à cette crise.
Merci beaucoup Mathieu Bock, envoyé spécial d'Europe 1 à Milan en direct.
Et l'Italie, Isabelle, d'où nous parvient cette vidéo absolument glaçante hein.
Oui, c'est le cri d'alarme d'un homme qui vient de perdre sa sœur victime du coronavirus, un acteur italien actuellement confiné chez lui à Naples, totalement désemparé. Et il y a de quoi, Jean-Sébastien Solaini?
Oui, il y a de quoi parce que Luca Francese se présente face à la caméra de son smartphone seul au premier abord dans une chambre à peine éclairée par une lampe de chevet. Puis au bout de quelques secondes, il s'écarte de l'image et montre une personne étendue sous des draps, le visage blafard d'une jeune femme inanimée et pour cause.
Buonasera a tutti.
Bonsoir à tous. J'en suis venu à un tel point que je fais ce message pour le bien de l'Italie et pour le bien de Naples. Ma sœur est morte hier, probablement du coronavirus. J'attends une réponse des autorités depuis hier soir, mais rien n'a avancé. Voilà ma sœur dans son lit. Morte. Je ne sais pas quoi faire. Je ne peux pas lui donner l'attention qu'elle mérite parce que les autorités m'ont abandonné.
Encore souffrante, épileptique, le médecin ne veut pas examiner sa sœur de 47 ans tant qu'elle n'est pas dépistée. Même réaction des pompes funèbres samedi alors qu'elle vient de mourir. Il refuse d'emmener le corps, demandant à toute la famille de se mettre en quarantaine, enfermée à la maison pendant plus de 24 heures jusqu'à ce que le diagnostic tombe, Covid-19. Le corps a depuis été emmené. Luca Francese s'est lui-même placé en quarantaine, inquiet pour ses parents âgés, car il dit avoir fait le bouche-à-bouche à sa sœur pour tenter de la maintenir en vie.
Merci beaucoup Jean-Sébastien Soldaini. Alors évidemment, on ne peut être que bouleversé en entendant ce témoignage et inquiet également, la situation italienne peut-elle se reproduire chez nous en France?
Alors c'est vrai qu'on en est loin pour l'instant. D'abord parce que le nombre de victimes et de cas dépistés est moindre. Mais qu'adviendrait-il? Qu'adviendrait-il si on en arrivait à ce stade?
Et oui, c'est la principale question et on vous la pose ce soir. Bonsoir Victor Dolande.
Bonsoir.
Est-ce que les hôpitaux français sont prêts à faire face à un afflux de patients?
En tout cas, ils font tout pour. Et les hôpitaux français ont appris de leurs erreurs. Souvenez-vous, on est en 2003, 15 000 personnes meurent de la canicule pendant l'été. C'est une catastrophe sanitaire sans précédent. Sauf que depuis, les hôpitaux se sont réorganisés. On est en capacité de mieux établir des priorités pour la crise du coronavirus. Le plan blanc des hôpitaux est activé, mais pas encore déclenché. Ce qui veut dire qu'au plus fort de la crise, quand le fameux stade 3 sera décrété, les opérations non urgentes seront reportées, les services d'infectiologie mais aussi ceux de réanimation seront renforcés, avec la possibilité d'ouvrir plus de lits dans ces services-là. On connaît d'ailleurs la capacité maximale de la France, 5000 lits dans les services de réanimation, c'est beaucoup. Et puis, tous les services hospitaliers vont s'adapter. Prenons des exemples concrets. À l'hôpital Robert Debré à Paris, les médecins réanimateurs pédiatriques vont donner un coup de main aux réanimateurs adultes. Là, ça peut sembler évident. À Creil, seul hôpital à avoir déclenché effectivement son plan blanc avec celui de Compiègne, on est en train de former aussi des chirurgiens à l'infectiologie pour qu'ils aident eux aussi. Enfin, la réserve sanitaire est en train d'être renforcée, c'est-à-dire que tous les hôpitaux sont en train de rappeler des étudiants en médecine ainsi que des médecins infirmiers à la retraite depuis moins de 5 ans. Ils doivent se tenir prêts à donner un coup de main. Tout est donc prêt. Les hôpitaux sont bien en ordre de bataille pour le pic de l'épidémie.
Merci Victor Dolande du service Société d'Europe 1.
Et vous parliez de la réserve justement, Victor Dolande. Le président du Conseil national de l'Ordre des médecins, Patrick Bouet, est mon invité sur ce sujet. Il va nous dire combien elle est évaluée, cette réserve, et quelle est sa mission dans moins de 15 minutes maintenant. On devra en savoir davantage également, Isabelle, demain sur ce qui nous attend, puisqu'Emmanuel Macron s'exprimera en direct à la télévision à 20h. Vous pourrez l'écouter en direct également sur Europe 1. Bonsoir Jean-Rémy Baudot.
Bonsoir Nathalie, bonsoir.
Sait-on
à tous.
Sait-on déjà ce que va annoncer le président?
Alors autant prévenir tout de suite, il n'est pas question, pour l'instant, d'annoncer un passage au fameux stade 3. Le gouvernement se prépare, oui, mais sauf surprise, sauf dégradation de la situation dans les prochaines 24 heures, pas de stade 3 annoncé par le président. Demain, l'allocution du président devrait donc être courte. Un moment où Emmanuel Macron veut rendre compte en toute transparence, dit l'Élysée, de la situation. Emmanuel Macron a eu l'occasion ces derniers jours, on en a parlé sur l'antenne d'Europe 1, de se rendre sur le terrain, à la cellule de crise du ministère de la Santé, dans les hôpitaux, dans des EHPAD. Mais ce sera la première prise de parole formelle. L'objectif, c'est de rassurer, d'anticiper les prochaines étapes de la crise, explique l'un de ses proches. en filigrane de l'Élysée, explique qu'il faut aussi que les Français se saisissent des enjeux sanitaires. Trop de Français font les gestes, oublient de faire les gestes barrières pour limiter la propagation du virus, grâce à un conseiller. Emmanuel Macron veut donc tenter un peu de pédagogie.
En attendant, Jean-Rémy, c'est toute la vie politique, hein, bien sûr, qui est bouleversée. Et en premier lieu, le Conseil des ministres de ce matin.
Oui, à l'Élysée, il a fallu s'organiser, même déplacer, déménager le Conseil des ministres. La réunion du président et de ses ministres a été donc déplacée dans une salle où il était possible de mettre une très grande table, un mètre entre chaque participant. Quelques directives au passage, pas d'embrassade, pas d'aparté, gel hydroalcoolique à portée de main. C'est ce que nous a expliqué notamment Sibeth Ndiaye, c'est la porte-parole du gouvernement à l'issue du Conseil des ministres, précaution maximale.
Le Conseil des ministres, comme l'ensemble des réunions dans n'importe quelle entreprise ou dans n'importe quelle administration, s'est adapté. J'ai moi-même par exemple tenu hier une réunion de cabinet où nous étions distants de 1 mètre les uns des autres. C'est un peu particulier, mais il faut prendre ces précautions lorsqu'elles nous sont recommandées par les autorités sanitaires. Ce matin, le Conseil des ministres s'est tenu au Salon Murat, qui est la configuration que nous utilisons depuis le début du quinquennat quand nous sommes avec l'ensemble du gouvernement et nous étions à une distance très raisonnable les uns des autres de manière à respecter ces consignes sanitaires.
Alors en réalité, c'est surtout autour du président de la République lui-même que les dispositions sont les plus strictes. Par exemple, tout ce qui l'entoure est régulièrement désinfecté. Son bureau n'accueille plus aucune réunion. Tout pour limiter d'éventuels contacts avec le virus.
Merci beaucoup Jean-Rémy Baudeau du service politique d'Europe 1. Cette intervention présidentielle donc demain à 20h, vous pourrez la suivre en direct sur notre antenne sur Europe 1 et le débrief juste après.
Puis précision très importante à l'instant, pour la première fois l'Organisation mondiale de la santé parle de pandémie, l'OMS qui évoque des niveaux alarmants de propagation et d'inaction.
Et c'est la première aujourd'hui, elle aura désormais lieu chaque année le 11 mars. Isabelle, tout autre sujet mais aussi important, une journée nationale d'hommage aux victimes du terrorisme. Emmanuel Macron a présidé une cérémonie tout à l'heure au Troquet des Rois à Paris aux côtés du roi d'Espagne. On sera sur place d'ailleurs hein, dans votre journal de 19h.
Europe 1.
Votre grand journal du soir sur Europe 1, c'est avec Isabelle Mille et Nathalie Lévy.
À suivre dans votre édition 18h, 23 ans de prison, 23 ans pour Harvey Weinstein. Condamnation exemplaire ce jour.
Et puis PSG Dortmund pour l'ambiance, ce ne sera pas ça, mais l'enjeu lui est énorme. Paris, même sans ses supporters, a l'obligation de l'emporter ce soir.
2 heures d'infos pour écouter le monde changer, c'est votre grand journal du soir jusqu'à 20h sur Europe 1. 18h12 sur Europe 1, la suite du journal avec Isabelle Millet et Nathalie Lévy.
Et cette question, vont-ils vaincre la malédiction ? Le PSG qui affronte ce soir au Parc des Princes Dortmund en 8e de finale, retour de Ligue des Champions, rencontre à huis clos. Coronavirus oblige, hein, Isabelle.
Eh oui, bonsoir Cyril de la Morinerie.
Bonsoir.
Alors vous allez nous faire vivre cette rencontre, Cyril, aux côtés de Julien Froment. Grande soirée foot dès 20h sur Europe 1, sous la houlette de Lionel Rousseau. On compte sur vous, évidemment, faute de
comptez
supporters pour mettre l'ambiance. Ça, on y compte. On rappelle qu'à l'aller, les Allemands s'étaient imposés 2-1. On rappelle aussi que depuis 2016, Paris n'a plus atteint les quarts de finale de cette compétition. Autant dire, Cyril, que c'est pas gagné.
Oui, il faudra un tout autre PSG qu'au match aller, plus mordant, mieux organisé, d'autant que Paris ne pourra pas compter sur Thiago Silva, blessé à la cuisse. Quant au meilleur buteur parisien, Kylian Mbappé, il souffre d'une forte angine depuis quelques jours. Il est fort probable qu'il soit remplaçant ce soir. Neymar se retrouve en mission et pourrait être associé à Sarabia en attaque. Méfiance, car Dortmund reste sur 5 succès consécutifs, en pile les buts avec sa star Haaland, auteur d'un doublé à l'aller. Mais un succès 1-0 suffit. Et comme Paris a toujours marqué lors de ses 34 derniers matchs, on se dit que c'est possible.
Et puis Cyril, il y a ce huis clos hein, qui ne va pas faciliter les choses. Ça va résonner.
Ah oui,
hein.
Ça va résonner, on va tout entendre. Et sans supporters, c'est évidemment très compliqué de se sublimer, me disait Christophe Jallet ou encore Jérémy Clément que j'ai joint pour Europe 1, qui sont des anciens joueurs du PSG et qui ont disputé il y a 10 ans le dernier huis clos au Parc des Princes. Et puis l'arbitre va tout entendre. Donc les joueurs vont devoir surveiller évidemment leur langage. Ce n'est pas une mauvaise chose, mais ils ne pourront pas en rajouter. En tout cas, il y aura 200 à 300 personnes au Parc des Princes ce soir, dont Anne Hidalgo, la maire de Paris, souhaite soutenir le PSG, mais sans le supporter numéro 1, Nicolas Sarkozy, qui lui regardera le match en famille.
Pas d'insultes et pas de chiquet, en tout cas. Merci voilà. Cyril de la Morinerie, que l'on retrouvera donc aux côtés de Julien Froment au commentaire ce soir. Grande soirée foot dès 20h avec Lionel Rousseau.
À 19h, on sera du côté de la Porte d'Auteuil où des ultras ont prévu néanmoins de se rassembler malgré l'annonce du huis clos à proximité donc du Parc des Princes.
Notez que la finale de la Coupe de la Ligue prévue le 4 avril entre le PSG et Lyon est-elle reportée à une date ultérieure, que la finale, la phase finale de la Fed Cup prévue en avril à Budapest est également reportée. Et puis pour la première fois en 3 décennies, la flamme olympique sera allumée en l'absence de spectateurs demain à Olympie pour les JO d'été de Tokyo qui pour l'instant eux sont maintenus.
On traverse l'Atlantique maintenant, c'est l'épilogue d'une affaire qui a changé littéralement le regard sur le harcèlement sexuel et qui est à l'origine du mouvement MeToo qui a depuis fait le tour du monde. Harvey Weinstein condamné cet après-midi même à 23 ans de prison.
Et on vous retrouve en direct des États-Unis. Xavier Yvon, vous êtes le correspondant d'Europe 1. Bonsoir.
Bonsoir.
Peine exemplaire hein, donc pour l'ancien producteur.
Oui, c'est une sentence extrêmement sévère. Harvey Weinstein a presque écopé de la peine maximale qu'il risquait après avoir été reconnu coupable de viol et d'agression sexuelle. À 67 ans, vu son état de santé, l'ancien producteur pourrait donc finir sa vie en prison. Dans la salle du tribunal, côte à côte au premier rang, il y avait tout à l'heure les 6 femmes victimes qui ont témoigné lors du procès. Elles se sont serrées dans les bras, certaines pleurant à l'énoncé de la peine. Une de leurs médiatiques avocates, Gloria Allred, a ensuite crié victoire à la sortie du tribunal.
This is what justice
c'est à
looks
ça
like.
Que ressemble la justice. Une peine de 20 ans plus 3 ans, prononcée ce matin par le juge Burke. Cette peine est suffisamment longue pour qu'il commence au moins à comprendre ce qu'il a fait. Est-ce qu'il sera un jour vraiment désolé? Je ne sais pas.
Harvey Weinstein n'a d'ailleurs pas demandé pardon quand il s'est exprimé à la barre avant de recevoir sa peine. C'était la première fois qu'il parlait devant la cour. Il s'est lamenté sur son sort. Il a expliqué que les hommes étaient désormais dans une grande confusion à cause de ce qui lui arrivait à lui. « Je suis inquiet pour mon pays », a-t-il dit, assis dans une chaise roulante. Lui n'en a pas fini pour autant avec la justice. Ses avocats vont faire appel ici à New York et un autre procès l'attend aussi désormais à Los Angeles.
Merci beaucoup Xavier Yvon, en direct correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. En France, la fin d'un autre procès, celui du couple Fillon dans l'affaire des emplois présumés fictifs. Les avocats de la Défense aujourd'hui ont bien sûr plaidé la relaxe. Hier, le parquet national financier avait requis 5 ans de prison, dont 2 fermes contre l'ancien Premier ministre et 3 ans avec sursis contre son épouse. Jugement le 29 juin.
Et Isabelle, on vous retrouve tout à l'heure à 18h30 pour un nouveau journal complet. Merci à vous. Anissa, du côté du ciel, des nuages et de la pluie.
Oui, effectivement, c'est ça le menu demain, Nathalie, pour presque toute la France, avec une perturbation qui va arroser les régions allant des Pays de la Loire jusqu'aux Ardennes, de la Gironde jusqu'à l'Alsace. C'est donc une large diagonale hein, avec des pluies accompagnées de vent, surtout sur le nord-est et les côtes ouest, avec des rafales jusqu'à 70 km/h. Dans l'après-midi, à l'arrière de cette perturbation, sur la Bretagne, la Normandie, le centre-val de Loire, la région parisienne, le nord. Et bien là, c'est un ciel de traîne qui s'installe avec une alternance entre nuages, éclaircies et des averses, évidemment. Plus au sud, après la dissipation des brumes et des brouillards matinaux, et bien là, le ciel reste voilé au bord de la Méditerranée, mais vous aurez quand même la chance d'avoir une journée au sec et avec quelques rayons de soleil. Sur les Alpes, il neige. La neige revient à partir de 2400 mètres. Les températures, elles sont toujours douces, hein, 6 à 10 degrés demain matin, 6 pour Saint-Étienne, 8 à Metz et Lille, 9 pour Marseille et Paris. Et dans l'après-midi, nous aurons 11 degrés à Brest, 13 à Paris, 15 à Rodez, 17 à Toulouse et 18 à Saint-Étienne.
Europe 1.
La suite de votre grand journal du soir, c'est dans un instant sur Europe 1 avec votre invitée Nathalie Lévy.
On va parler non pas de réserve militaire mais de réserve sanitaire ce soir. Elle fonctionne sur le même principe. Mobiliser les médecins retraités pour faire face à l'épidémie de coronavirus appel lancé en France. Le président du Conseil national de l'Ordre des médecins Patrick Bouette est mon invité dans 2 minutes.
Et votre grand journal du soir, c'est tous les jours jusqu'à 20h sur Europe 1 avec Nathalie Lévy. La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1. Des dizaines de milliers de médecins et infirmiers à la retraite sont appelés à rejoindre la réserve sanitaire. L'objectif est de faire face à l'épidémie de coronavirus. Vous recevez ce soir Nathalie Lévy, Patrick Bouette, le président du Conseil national de l'Ordre des médecins.
Bonsoir Patrick Bouet, merci beaucoup d'être avec nous en direct ce soir. Bonsoir. Sur Europe 1. Alors comme l'armée, il existe en médecine des réservistes. De qui est-elle composée cette réserve ?
Alors écoutez, aujourd'hui, la réserve est composée soit de professionnels de santé en activité, soit de professionnels de santé en retraite qui se portent volontaires et s'inscrivent pour y participer.
Qui décide de mobiliser la réserve sanitaire ?
Eh bien écoutez, c'est une agence d'État, hein, c'est l'agence Santé publique France et la réserve sanitaire qui est placée sous son autorité et qui décide des missions qui sont proposés aux volontaires pour venir épauler le système de santé ou participer à certaines missions urgentes. Il y en a actuellement une à La Réunion Mayotte, par exemple, et vous vous en doutez, il y en a une actuellement dans l'Oise, dans le cadre du coronavirus.
Alors, c'est depuis ce matin hein, que les appels sont passés. Comment ça se déroule concrètement, cette mobilisation ? Vous passez les appels individuellement ?
Alors, nous avons donc envoyé et identifié 40 000 médecins retraités depuis moins de 5 ans et nous leur avons envoyé un message personnel, soit par voie de mail, soit par voie de courrier pour un certain nombre d'entre eux, dans lequel nous les incitons soit à s'inscrire sur le site de la réserve sanitaire, soit à se signaler auprès de leur conseil départemental pour participer éventuellement au soutien de la médecine de ville sous forme d'adjoint.
D'accord. Et à ce stade, est-ce que vous avez déjà évalué le nombre de réponses favorables ?
Écoutez, nous avons lancé l'opération aujourd'hui, que ce soit l'ordre des médecins ou que ce soit l'ordre des infirmiers. Je serai en meilleure situation au bout de quelques jours de vous donner le taux de réponse. Mais nous avions beaucoup d'interrogations en amont. Et c'est ce pourquoi nous nous sommes mobilisés.
D'accord. Est-ce que néanmoins ce n'est pas contradictoire de faire appel à des médecins à la retraite, parce que c'est ce que vous nous signifiez, susceptibles, on le sait, hein, de faire partie de la population la plus exposée au coronavirus ?
Bah, écoutez, ce serait vrai si les médecins retraités prenaient leur retraite à 75 ans. Mmh. Aujourd'hui, vous le savez, l'âge auquel prennent leur retraite les médecins est inférieur à 70 ans, voire inférieur à 65 ans. Mmh. Et le fait de faire une demande vers des médecins qui ont moins de 5 ans de retraite nous amène dans des zones dans lesquelles nous ne les surexposons pas.
D'accord. Donc, de quelles mesures de protection néanmoins disposeront-ils ces médecins seniors ?
Ah ben écoutez, ils vont disposer des mêmes mesures de protection que les médecins seniors qui aujourd'hui sont en activité. D'accord. Pour une partie d'entre eux. Vous savez que la moyenne d'âge des médecins qui exercent sur le territoire français s'est allongée. Nous l'avons depuis de nombreuses années dit dans l'atlas de démographie.
Mmh. Alors donc vous rappelez les médecins mais aussi des infirmiers, vous nous l'avez dit. Comment vous allez distribuer les rôles ? Quels vont-ils être ces rôles et dans quel lieu précisément ?
Écoutez, actuellement l'ordre des médecins et l'ordre des infirmiers se sont mobilisés, chacun pour ceux qui les concernent, c'est-à-dire chacune des deux professions. Mmh. C'est ensuite la réserve sanitaire, lorsque les médecins auront choisi d'être volontaires, qui, elle, déterminera des missions et des actions que le gouvernement ou l'Agence Santé publique France décidera de mettre en œuvre. Et à partir de ce moment-là, elle aura un potentiel plus important de professionnels pour arriver à assumer l'ensemble des missions qui seront les siennes et surtout se porter au contact de la population pour aider les professionnels qui déjà depuis plusieurs semaines sont sur le terrain, tant à l'hôpital que dans la ville.
D'accord. Ces candidats, ces volontaires, comme vous nous l'indiquez, comment seront-ils rémunérés ?
Ils sont rémunérés par la voie des textes réglementaires, c'est-à-dire que les médecins réservistes de la réserve sanitaire ont une rémunération spécifique dans le cadre des missions qu'ils accomplissent. Mmh. Et si les médecins choisissent d'être adjoints auprès de professionnels de santé libéraux, ils bénéficieront des rémunérations liées aux actes qu'ils accompliront. Mmh.
Mmh. Est-ce que déjà aujourd'hui, vous dites que si les cas de coronavirus augmentent en France, des mesures comme celle-là peuvent être amplifiées ?
Ah bah écoutez, en tout cas, il faut que dès maintenant, et alors que nous ne sommes pas arriver au maximum de ce que pourrait être cet épisode épidémique, nous prenions toutes les dispositions nécessaires pour mobiliser les forces de santé, parce qu'aujourd'hui, 200 000 médecins sont en contact des patients, et le fait de dire que 40 000 médecins supplémentaires sont susceptibles de venir les aider en cas de besoin, c'est quelque chose d'important pour, je dirais, la pérennité de l'action des médecins français. Ce sera la même chose, d'ailleurs, pour les infirmiers qui sont eux aussi au contact aujourd'hui de la population.
Bien sûr. Admettons le pire des cas. Si vous aviez trop de refus, on peut les contraindre, ces médecins réservistes ?
Ah, écoutez, il appartiendra ensuite à l'État de voir dans quelles conditions il voudrait mettre en œuvre des processus de contrainte. Je pense que le président de la République, quand il s'exprimera demain, expliquera aux Français une partie des choses qui pourraient être décidées. Pour l'heure, nous sommes, nous, dans le contexte du volontariat, parce que nous savons que les médecins nous ont demandé pour cette partie de la population médicale comment ils pourraient aider leurs confrères et que nous leur proposons aujourd'hui deux solutions pour le faire.
Et enfin, à contrario, vous nous l'avez dit, tout le monde peut être volontaire, c'est bien ça ?
Tout le monde peut être volontaire, je le suis moi-même et je me suis inscrit à la réserve sanitaire.
Merci beaucoup Patrick Bouet de nous avoir accordé quelques minutes ce soir, président du Conseil National de l'Ordre des Médecins. Merci beaucoup de nous avoir répondu sur Europe 1.
Merci à vous. Merci. Europe 1.
Votre grand journal du soir se poursuit sur Europe 1 avec Nathalie Lévy.
Avec dans un instant un nouveau journal complet signé Isabelle Millet, puis dans la foulée les grandes voix, bien sûr, qui nous rejoignent dans ce studio.
Vous pouvez interpeller les grandes voix, n'hésitez pas, ça se passe au 3921 ou sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Votre grand journal du soir, c'est jusqu'à 20h tous les jours. 18h30 sur Europe 1, votre grand journal du soir, Nathalie Lévy.
Votre rappel des titres, Isabelle Millet.
Et pour la première fois, l'Organisation mondiale de la santé annonce ce soir que l'épidémie de Covid-19 constitue désormais une pandémie. L'OMS qui évoque des niveaux alarmants de propagation et d'inaction. Emmanuel Macron interviendra demain à 20h à la télévision, intervention consacrée à cette crise sanitaire, alors qu'une partie de l'Italie s'apprête à être placée sous cloche, la Lombardie et la Vénétie. Le laboratoire Boiron annonce plus de 600 suppressions de postes en France, soit environ un quart de ses effectifs dans le pays. La fermeture d'un de ses trois sites de production, Boiron met cette décision sur le compte du déremboursement de l'homéopathie décidé par le gouvernement. Le lancement de la privatisation des aéroports parisiens est reporté. Les conditions actuelles ne sont pas du tout favorables, précise la porte-parole du gouvernement. Harvey Weinstein, condamné à 23 ans de prison, peine exemplaire pour l'ancien producteur. Et puis le PSG affronte ce soir au Parc des Princes Dortmund, en huitième de finale retour de Ligue des Champions. Rencontre à huis clos, mais à suivre en direct et en intégralité sur Europe 1 des 20h.
Et vous, on retrouve Isabelle Mille à 19h. Anissa, une couleur demain, du gris.
Oui, effectivement, sur une grande partie de la France, il va faire gris demain. Quasiment toute la France, en fait. Il n'y a que le sud et le quart sud-est. Vous aurez la chance d'avoir un ciel un peu plus dégagé et surtout un temps sec. Donc demain, sur les Pyrénées, tout le pourtour méditerranéen, la vallée du Rhône, ainsi que la Côte d'Azur et la Corse, eh bien là, le soleil sera présent, le temps sera sec partout ailleurs. Au nord de cette zone-là, c'est un ciel partagé entre nuages et éclairci avec de nombreuses averses tout au long de la journée. Et puis le vent d'ouest qui souffle toujours sur le nord et sur l'est. Attention, des rafales demain sur l'Alsace attendues à 70 km/h. Les températures, elles sont douces, 6 à 10 degrés demain matin. Nous aurons 6 degrés pour Lyon, 8 à Lille, 9 pour Marseille et Paris. Et dans l'après-midi, on attend 11 à 21 degrés, 21 pour Grenoble.
Europe 1.
La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 avec le débat des grandes voix jusqu'à 19h. Autour de vous, Nathalie Lévy ce soir, Catherine Ney, Adélaïde Zulfikar-Passic, directrice du département opinion du groupe BVA, et Alix Bouyaguet, rédactrice en chef de Vous avez la parole sur France 2.
Bonsoir mesdames.
Bonsoir.
Bienvenue dans ce studio, ravie de vous avoir là pendant une demi-heure pour décrypter, décortiquer ce nouveau sondage que vous nous proposez, Adélaïde, ce soir. Le bras de fer dans les sondages, évidemment, cela va de soi puisqu'on est à 4 jours du premier tour. Entre Rachida Dati particulièrement et Anne Hidalgo continue ce bras de fer. Alors on va regarder de près le vôtre désormais. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a comme enseignement d'ores et déjà? C'est que Rachida Dati et Anne Hidalgo, si elles sont au coude à coude, c'est la candidate LR qui prend un peu la main.
Elle prend un peu la main, mais là on parle d'un point d'écart, donc on peut quand même dire qu'elles sont dans un mouchoir de poche à quelques jours du scrutin, alors même qu'un quart des électeurs parisiens déclarent pouvoir encore changer d'avis. Donc on voit quand même qu'on est quand même dans une incertitude par rapport à laquelle arrivera en tête du premier tour, mais elles font la course en tête toutes les deux et distancent Agnès Buzyn, qui est la troisième du trio, mais à 19% seulement d'intention de vote.
On dit un mot de David Belliard à 12%, Cédric Villani qui plafonne, j'allais dire, hein, à 7%. Il y a une déception?
Alors, pour David Belliard, certainement, parce qu'on peut rappeler que Europe Écologie Les Verts avait réalisé un très bon score aux européennes à Paris, près de 20%. Donc, avec 12%, c'est très en deçà des ambitions qu'ils avaient pu nourrir pour Paris. C'est le premier point. Et pour Cédric Villani, certainement également, puisqu'on avait vu une dynamique en début de campagne, il est monté à 13, 14 dans certains sondages. Après, il faut avoir en tête que Paris, ce n'est pas un scrutin, mais 17 scrutins, avec autant de configurations de premier tour possibles et des équilibres de force très différents aussi. Et Cédric Villani pourrait se maintenir dans un ou plusieurs arrondissements. Ça va se jouer au cas par cas.
Bien sûr, on va regarder évidemment tout ça dans le détail dans un instant. Je voudrais avoir votre regard, mesdames. Catherine Ney, comment vous observez là au fil des sondages? On voit bien que la dynamique, elle a l'air d'être pour Rachida Dati. Enfin, elle a l'air, mais ça se joue dans un mouchoir de poche, effectivement, comme le disait Adélaïde.
Oui, parce qu'elle a fait une bonne campagne. Et alors, il est vrai qu'elle a crédité de 25% des voix et qu'il y a 6 ans... Nathalie Kosciusko-Morizet, elle avait recueilli 35% des voix et elle avait été battue par la maire actuelle. Donc, est-ce que malgré une bonne campagne, elle peut gagner? Alors, la différence avec Nathalie Kosciusko-Morizet, c'est qu'elle a fait campagne dans l'Est parisien, ce que n'avait pas fait, ou apparemment, sur le terrain. Alors, je ne sais pas comment ça va, quel résultat ça va donner, mais elle a fait une campagne pas seulement dans l'Ouest de Paris, où la droite
domine en général,
encore qu'on a vu qu'aux européennes, c'était les En Marche. Donc moi je dois dire que c'est une élection où je ne vois rien, je n'ai aucun sentiment. Je pense qu'il va y avoir des triangulaires, des quadrangulaires. Et comment, à la fin, moi, j'ai des espérances pour l'une ou l'autre et des degrés pour d'autres, mais
Difficile, effectivement. Vous avez raison, Catherine. C'est vrai qu'en 2014, Alix Bouyaguet, la situation, elle était quand même assez simple lors des précédentes municipales. Là, on voit bien au fil des sondages qu'on a du mal, de toute façon, à avoir une course en tête.
C'est clair que mathématiquement, quand on se dit qu'il y a 6 ans, NKM obtenait 35% au premier tour et que la finale Rachida Dati n'obtient que 25%. Ouais. Moi, mathématiquement, je ne vois pas trop comment elle peut s'en sortir. Après, on va parler des alliances, oui. Forcément, il y en aura avec qui ? Alors, à un moment, on avait imaginé qu'il pourrait y avoir des alliances avec Agnès Buzyn. On avait au dernier débat hier soir
que c'était pas gagné.
Que c'était pas gagné, mais en revanche, c'est une élection, vous le disiez tout à l'heure, qui aussi se joue dans les arrondissements. Alors, est-ce que dans les arrondissements, il pourrait y avoir des petites tambouilles qui feront qu'à l'arrivée, ça ramasse des voix ? Puis, ne pas oublier non plus que le scrutin parisien, c'est premier tour, deuxième tour Bien sûr, troisième tour. Et que là aussi, les choses peuvent se jouer et les petits arrangements entre amis peuvent aussi arriver.
Et oui, qu'est-ce qu'on se dit, Adélaïde Zulfikar Pasic, aujourd'hui, à ce stade, les alliances imaginables au vu du second tour, au regard du sondage ?
Alors, c'est extrêmement compliqué parce qu'effectivement, on peut se dire que dans certains arrondissements, des candidats La République En Marche peuvent s'entendre avec les Républicains, mais ça ne sera pas le cas partout. Je prends par exemple l'exemple du 12e arrondissement. La candidate est une ancienne députée socialiste, donc pas sûr que les électeurs la suivent dans le cas d'une telle alliance.
Même du 15e arrondissement, on peut citer aussi le 15e arrondissement.
Alors, le 15e, c'est
encore un cas particulier.
C'est un cas particulier parce que là, c'est, effectivement, on est plutôt face à une dissidence de la droite, enfin Philippe Goujon, qui est quand même le maire sortant, qui lui d'ailleurs avait toujours dit qu'il pourrait tendre la main à La République En Marche. Tout va dépendre de qui arrive en tête dans cet arrondissement. Si Rachida Dati arrive en tête, elle sera plus en capacité peut-être d'imposer le tempo. Si c'est lui, voilà. Mais tout ça montre qu'on a une complexité, effectivement, comme le rappelait Catherine, de la situation, qui fait qu'on est bien en peine de pouvoir se dire concrètement ce qui va se passer le 22 mars.
Juste si je peux rebondir sur ce que vous venez de dire, ce qui est amusant dans le cas de Philippe Goujon, c'est que j'ai vu un tweet passer de Xavier Bertrand, qui arrive à faire comme le tour de force de à la fois saluer et soutenir le candidat dissident Philippe Goujon et en même temps prier pour la victoire de Rachida Dati.
Oui. Donc il dit le 15e, c'est pour Goujon, la mairie c'est pour Dati. Voilà, donc
bon, alors on s'en reparle dans un petit instant parce qu'il y a aussi les priorités des Français et particulièrement des Parisiens avec votre sondage BVA pour Orange et Europe 1 dont on se reparle, mesdames, dans un petit instant.
Et vous pouvez réagir au 39-21 ou sur Twitter hashtag Europe 1. Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec le débat des grandes voix jusqu'à 19h. Autour de vous, Nathalie Lévy, vous recevez Catherine Ney, Adélaïde Zulfikar Pasic, directrice du département opinion du groupe BVA, et Alix Bouyagué, rédactrice en chef de Vous avez la parole sur France 2.
Oui, mesdames, on regarde de près ce sondage BVA pour Orange et Europe 1 à 4 jours maintenant du premier tour de ces municipales. Sondage qui zoome sur Paris avec Rachida Dati, une courte avance sur la maire socialiste sortante de 24% pour Anne Hidalgo, 25% pour Rachida Dati. Quant à Agnès Buzyn, elle arrive entre en campagne sur le tard, hein, on s'en souvient. Elle se maintient de son côté en troisième position à 19%. Un mot sur les priorités des Parisiens, évidemment, Adélaïde Zulfikar Pasic, parce que on voit qu'il y a la propreté qui arrive en tête et on n'est pas surpris, j'ai envie de dire.
On n'est pas surpris, effectivement, mais il faut quand même souligner que l'écart avec la moyenne des Français est spectaculaire. Il y a 30 points de plus de préoccupation, donc on voit bien que c'est un sujet de campagne, et on en parle depuis un moment, qui pourrait d'ailleurs être un peu préjudiciable à Hidalgo, parce que c'est quand même son bilan. Alors, elle a beau faire des propositions et dire qu'elle va faire une rallonge budgétaire, c'est vrai que c'est compliqué pour elle, sur ce sujet spécifiquement, de se démarquer, parce qu'elle est, voilà, elle est tributaire de ce bilan.
Bah oui, on voit régulièrement, Catherine Ney, Alix Bouyagué, des vidéos de Parisiens qui postent les rats autour des poubelles, même au Trocadéro, j'en ai vu une pas plus tard que la semaine dernière, de vidéos édifiantes, il y avait une horde de rats, on est en pleine épidémie de coronavirus, ça peut impacter ça, et ça peut desservir Anne Hidalgo, en effet.
Bah oui, d'ailleurs, les Français, enfin évidemment, ceux qui vivent à Paris le constatent, mais je veux dire, c'est l'étranger maintenant, tous les hôteliers disent que ce qui frappe les étrangers qui viennent à Paris, c'est la saleté de la capitale, avec les ordures qui sont pas ramassées sur les places, et puis les rats. Ça, c'est vrai que la saleté. Alors, Madame Hidalgo est aussi victime du fait qu'il y a eu des grands travaux partout dans Paris, et partout il y a des trous, et bien ceux qui vivent en dessous du macadam remontent. Alors c'est vrai. Et puis il y a aussi l'incivilité des Parisiens qui jettent leurs mégots, leurs chewing-gums, tout ce qui est puni dans d'autres villes, là, c'est vrai. Mais quand même, je pense que la propreté n'était pas quand même une des grandes idées de Madame Hidalgo, et peut-être que là, ça... Elle est moins bien placée en parlant aujourd'hui que ses deux adversaires, et dont Rachida Dati, qui en a fait un thème de campagne tout de suite.
Évidemment, Alix Bouyagué.
Oui, non, mais c'est évident que c'est à mettre à son crédit ou à son débit.
Ou à son débit,
oui. Plus exactement. Après, elle a aussi essayé de situer la campagne sur un autre niveau et elle s'est extrêmement verdie. Donc, elle essaye aussi de pouvoir envisager une éventuelle alliance avec David Béliard. Donc, elle essaye de surfer sur d'autres thèmes. Je trouve que le premier débat, elle était vraiment dans les cordes et on a senti qu'elle s'est pris son bilan vraiment clairement de face.
C'était vraiment sur la défensive.
Le deuxième débat d'hier, on a vu qu'elle reprenait un petit peu l'ascendant et que à l'heure où on se parle, ça semble quand même la mieux placée pour se succéder elle-même.
Se succéder. Alors justement, d'un mot,
tutoyer ostensiblement Cédric Villani pour montrer
bien sûr,
c'est la proximité.
Exactement. On a vu le jeu. On a vu le jeu aussi de Rachida Dati, d'un mot qui va de ses punchlines maintenant régulièrement sur les plateaux télé lors des débats. Typiquement hier sur les alliances pour le second tour, on n'est pas dans Koh-Lanta parce que le vrai match se fera au troisième tour pour l'élection de la maire par les conseillers de Paris.
C'est une réalité. Effectivement, la formule était très bien trouvée. Vous parlez de punchline. C'est un petit peu hypocrite parce qu'il est évident que de son côté aussi, elle est sans doute en train de penser à ce second et à ce troisième tour. Mais on le voit bien, il y a des arrondissements qui vont être des arrondissements clés, notamment le 14e arrondissement qui aujourd'hui est dirigé par une maire socialiste. Et c'est un arrondissement qui cristallise les espoirs de l'opposition. Et dans cet arrondissement-là, pour donner un exemple très concret, Catherine a dit qu'on peut avoir parfois 4 ou jusqu'à 5 listes. Là, on pourrait très bien se retrouver avec une situation où on a la liste socialiste qui se qualifie, la liste d'Europe Écologie Les Verts, la liste de Cédric Villani, la liste LREM et la liste LR. Avec tout ça, Cédric Villani se retrouve un petit peu en faiseur de rois, de reine, mais qui aujourd'hui est capable de dire ce qu'il va faire, est-ce qu'il va se maintenir, est-ce qu'il va s'allier? C'est très compliqué.
Dans votre cas, je vous dis que 65% des gens qui vont voter souhaitent changer d'équipe municipale.
Il y a un paradoxe.
Il y a un paradoxe
parce qu'elle est très clivante, elle suscite un peu un phénomène je t'aime, je te déteste.
58% des sondés insatisfaits en ce qui la concerne.
Oui, c'est ça.
Hidalgo,
c'est beaucoup plus fort que la moyenne nationale.
Exactement.
Mais elle est très clivante. Et elle a des vrais supporters. Les sympathisants socialistes apprécient beaucoup son bilan. Et les sympathisants Europe Écologie Les Verts également. Et c'est d'ailleurs ce qui fait que David Béliard a un score assez faible par rapport à ses ambitions de départ. Donc elle a des vrais supporters. Et puis aussi, ce que nous disent les Parisiens dans notre sondage, c'est qu'il n'y a pas non plus d'alternative qui s'impose de manière majoritaire.
Évidente. Voilà. Un dernier mot, Alix Bouyaguet. Et après, je voudrais qu'on aille en quelques mots, si vous voulez bien, sur la prise de parole d'Emmanuel Macron demain soir à 20h. Et puis Olivier Véran aussi, ce nouveau ministre de la Santé, qui est une forme de révélation peut-être dans cette crise. L'épidémie, évidemment, elle inquiète. On parle de pandémie maintenant, l'OMS l'a dit tout à l'heure. Ça peut jouer sur les votes. C'est la première fois qu'on connaît ça.
Alors, ça peut jouer sur les votes, bien sûr, et je pense que c'est en partie la réponse à laquelle il y a une prise de parole demain du chef de l'État. Je pense que le chef de l'État, il voit très bien qu'il pourrait y avoir un impact sur les municipales et que notamment certaines populations, peut-être même les plus vulnérables, les seniors, pourraient ne pas se déplacer. Donc, je pense qu'il va faire, il va rassurer et effectivement faire de la pédagogie sur les procurations, le fait que on peut voter sans se déplacer par ailleurs, et puis expliquer que au sein des bureaux de vote, il y aura les gels hydroalcooliques, les rideaux,
qui va bien,
on va enlever les rideaux des isoloirs, on va avoir du stylo individuel. Enfin voilà, je pense qu'il va essayer de faire un appel au vote puissant et massif.
Un mot encore, Adélaïde, là-dessus ?
Oui, les enquêtes d'opinion le montrent d'ailleurs de manière concrète. Ce que disait Alix comme hypothèse, c'est qu'on voit bien qu'en cas d'aggravation de la crise et d'éventuel passage au stade 3, on pourrait avoir des pertes de participation dans certaines zones, allant jusqu'à 10 points. Et cette abstention massive, elle serait différenciée. Elle concernerait davantage les populations à risque, les 65 ans et plus, qui parfois déclarent des baisses de participation de l'ordre de 20 points. Et ce sont des gens qui votent davantage pour les Républicains. Donc ça pose aussi une question politique.
Oui, mais on a vu que des jeunes aussi sont les plus frileux pour aller voter. Alors déjà qu'ils ne votent pas beaucoup.
C'est ça,
donc
c'est
là, le point de départ. Donc ce serait préjudiciable aux Verts, plutôt.
C'est une histoire de point de départ, parce qu'en fait, dans les enquêtes, on voit quand même que c'est plutôt les seniors qui se démobiliseraient davantage.
Bon, on verra ça, évidemment, dans 4 jours, premier tour. Ensuite, 11 jours pour le second. On s'en reparle dans un petit instant, mesdames. Ce sondage BVA pour Orange et Europe 1, c'était sur Paris. Je voudrais qu'on élargisse, évidemment, au national, parce que demain, prise de parole d'Emmanuel Macron. Et puis Olivier Véran, très didactique. Enfin, vous allez me dire, tiens, ce que vous en pensez.
Votre grand journal du soir, c'est avec Nathalie Lévy sur Europe 1.
La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 avec le débat des grandes voix. Ce soir, autour de vous, Nathalie Lévy, Catherine Ney, Adélaïde Zulfikar-Passic, directrice du département opinion du groupe BVA, et Alix Bouyaguet, rédactrice en chef de Vous avez la parole sur France 2.
Deux hommes aujourd'hui sont partout, tiennent, j'allais dire, les rênes et font en sorte d'être dans une position peut-être de chef de guerre pour Emmanuel Macron, et dans une pédagogie, dans une manière d'être très didactique, très illustrée, c'est Olivier Véran. Alors Emmanuel Macron, il parlera demain à 20h, peut-être pour rassurer les Français, en tout cas très brièvement, c'est ce que nous disait tout à l'heure Jean-Rémy Baudeau. Catherine Ney, il y a ces deux hommes en première ligne aujourd'hui, et c'est plutôt un duo qui fonctionne.
Oui, c'est un duo qui fonctionne. D'ailleurs, il y a très peu d'opposition. Madame Le Pen, d'ailleurs, je crois qu'elle a perdu dans les sondages. Et puis, Dupont-Aignan qui s'est fait rabrouer par Michel Cymès. Ça, c'est... Bon, et on était d'accord avec lui. Bon, mais le président, il est dans son rôle. Mais il fait très attention à ne pas créer d'angoisse. C'est-à-dire qu'il ne va pas dire, comme Mme Merkel, que 60 à 70% des Allemands pourraient être affectés. Lui dit au contraire... On contient, il faut d'abord avoir des mesures barrières, des gestes barrières. Donc, et puis il dit surtout que mettre en confinement un pays, c'est absolument pas une chose qui peut se faire dans la durée. Ouais. Donc, je ne sais pas ce qu'il va dire. Il va faire un point d'étape. Moi, je crois surtout qu'il veut rassurer les gens et leur dire d'aller voter. Tandis que Olivier Véran,
le tout jeune ministre de la Santé,
il agit dans sa pédagogie comme un médicament. Les gens se disent, après tout, voilà, on lit la notice avec lui de ce qui peut se passer. Et ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'il est didactique, précis, compétent, puisqu'il est lui-même médecin, qu'il rêvait de ce ministère. Avec ce, vous savez, il a joué les Giscard qui faisaient des courbes à la télé pour montrer comment allait être la croissance. Lui montre quelles sont les courbes qui ont été définies par des spécialistes. Le pire, c'est que ça part doucement, il y a un pic et ça redescend. Lui, il dit tout faire pour que le pic soit le moins haut possible. Exactement. Et le moins haut possible, c'est quoi ? Se laver les mains, ne plus embrasser ses voisins, n'aller pas voir les personnes âgées. Et peut-être que ça va réussir, parce qu'aujourd'hui, la progression continue, mais ça, on ne peut pas dire que ça flambe.
Exactement, et il le disait lundi soir, tous les patients atteints du coronavirus sont désormais sortis des hôpitaux. Il n'y a plus d'hospitalisation. Voilà. Alix Bouyaguet, Macron un peu en chef de guerre quand même depuis le début de cette crise, et crescendo, j'allais dire, parce qu'il retourne malgré tout sur le terrain, SAMU, aux côtés des hospitaliers, un peu partout.
Oui, alors là, demain, ce sera une parole un peu plus officielle, mais c'est vrai que tous les jours, on l'entend. Il est à droite, à gauche, dans les EHPAD, dans les hôpitaux, donc bon, sa parole est distillée. Demain, effectivement, a priori, pas de passage au stade 3, parce que de toute façon, il a été décidé que ce ne serait pas lui qui l'annoncerait, mais que ce serait le personnel de santé, en l'occurrence, soit son ministre Olivier Véran, soit le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, et que lui, après, débrieferait. Donc, demain soir, de toute évidence, c'est... on rassure. Et puis, je pense qu'il y a un gros coup de pouce aussi qu'il a envie de donner en faveur de l'économie. Je pense qu'aujourd'hui, ils sont tous un peu tétanisés à l'idée de se dire que le pays puisse se crisper, se cabrer, qu'il y ait des faillites, qu'il y ait la récession. On voit Bruno Le Maire qui est extrêmement présent, tendu là-dessus. Et on voit que certains sondages disent que le moral des Français commence à être un petit peu en berne, qu'il y a des choses qui se profilent. Et puis, on peut aussi regarder ce qui s'est passé en Chine. On a vu que le taux de croissance qui était pour le premier trimestre 2020 était prévu à 6%. En fait, il a été revu à la baisse à 2,3% pour un pays comme la Chine. Donc, en France, il peut y avoir des déflagrations. Et je pense que demain, Emmanuel Macron va vouloir dire le pays n'est pas à l'arrêt, on contrôle la situation, mais on continue d'avancer.
On continue d'avancer. Et puis, Adélaïde Zulfikar-Passic, il y a quand même, dans 4 jours, le premier tour des municipales. Il va peut-être en être question aussi.
Alors, je ne sais pas s'il va l'aborder la question de manière directe.
Non, mais en tout cas,
il est évident que dans son intention, au-delà de ces questions effectivement économiques, parce qu'on le voit aussi dans les enquêtes d'opinion, on voit que les gens arrêtent de fréquenter les cinémas, les restaurants, donc il y a ce sujet qui a une vraie préoccupation. On voit aussi que les gens déclarent avoir, pour certains, peur d'aller voter, se poser la question d'aller voter. Donc, il est évident qu'il va avoir, dans cette fonction de réassurance, peut-être qu'il va parler d'ailleurs des dispositifs qui sont pris, le fait que les gens vont venir avec leur propre stylo.
Oui, alors ça, on nous en parlait en début de semaine, effectivement. Peut-être qu'il va compléter,
Ou voilà, mais en tout cas, je pense, l'idée de montrer que tout est mis en œuvre pour assurer la sécurité sanitaire dans le pays en général, et donc plus précisément dans les bureaux de vote, parce qu'on peut sinon se diriger vers une abstention vraiment importante par rapport à ce qui était anticipé initialement.
Moi, si j'avais vraiment mauvais esprit, je pourrais dire que les intentions d'Emmanuel Macron sont à la fois très légitimes, prendre la parole, s'exprimer comme il l'a fait après le Brexit, après les Gilets jaunes, à un moment un peu solennel, mais qu'en même temps, ce n'est pas dénué d'intention.
Bien sûr.
À trois jours du vote, à la veille... De la fermeture du temps de parole de tout le monde, de prendre la parole et d'inciter finalement, dans son message, les gens à aller voter.
Il est aussi dans son rôle là-dedans. Je trouve que d'avoir choisi Olivier Véran, et qui a montré d'emblée, il a tout de suite été opérationnel et très bien, et on l'admire, et on s'aperçoit, alors qu'on admirait beaucoup Madame Buzyn, qu'il est bien meilleur qu'elle, et que tout d'un coup, on s'aperçoit que c'est lui qui a le leadership, et c'est pas elle. Et moi, je crois qu'en creux, on se le dit aussi quand on la regarde à la télé, dans le débat avec ses adversaires pour la mairie de Paris, où on s'est aperçu que c'était pas une politique. Et que ça va être difficile pour elle.
Vous allez dire double effet qui se coule.
Oui,
parce que Olivier Véran, il fait le job aussi.
C'est un effet Véran qui est presque
contre-productif, en tout cas pour les marcheurs.
Absolument.
Et pour la candidate.
Oui, surtout pour Agnès Buzyn, effectivement, qui du coup apparaît en plus un petit peu comme étant celle qui a déserté au plus fort de la crise, potentiellement, alors que lui, il est celui qui a pris un peu le sale job, bien sûr. Et qui est présent.
Mais avec volupté.
Et je pense, en plus, je précise quand même que dans l'opinion publique, c'était un parfait inconnu il y a encore 3 semaines. Ouais. Et il a su s'imposer, vous l'avez dit, très naturellement, jusqu'à supplanter Agnès Buzyn, qu'on a presque oublié par ses qualités de clarté, de pédagogie, parce qu'il inspire aussi tout naturellement.
Je pense qu'il ne va pas rester longtemps un inconnu.
Même à tel point que même les Républicains, Rachida Dati en tête hier soir, jugeaient la communication du ministre de la Santé assez efficace. Donc là, aujourd'hui, il fait vraiment l'unanimité.
Oui, c'est
donc
vrai.
C'est vraiment l'union nationale, en quelque sorte.
Assez peu de voix pour critiquer. Moi, il me semble que... le gouvernement, finalement, est dans la juste mesure de cette gestion, c'est-à-dire on prend un peu le contre-pied de l'Italie, pas de dramatisation, et en même temps, on a le sentiment que les choses sont quand même prises en compte au jour le jour.
Bon, on verra si ça tient, cette unité nationale, et puis on entendra évidemment Emmanuel Macron demain soir en édition spéciale sur Europe 1. Merci beaucoup, mesdames.
Merci.
Les grandes voix.
Europe 1.
À suivre dans votre grand journal du soir, Nathalie Lévy.
Le 19h d'Isabelle Millet, la une de l'actualité ce soir, le match PSG Dortmund qui se prépare à être joué, mais à huis clos. On est quand même en direct, nous, avec les supporters aux abords du Parc des Princes et puis l'OMS qui qualifie l'épidémie de Covid-19 de pandémie, désormais.
Vous écoutez Nathalie Lévy, c'est votre grand journal du soir sur Europe 1 jusqu'à 20h. Jusqu'à 20h sur Europe 1, vous écoutez votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy. La suite du programme avec vous, Nathalie.
Alors, 19h10, on commence avec l'interview politique. Aurélie Herbaume reçoit ce soir François Calfon, conseiller régional d'Île-de-France et membre du bureau national du Parti Socialiste. À 19h20, un Demain dans le Monde exceptionnel en direct de Kigali au Rwanda pour la sortie du film événement Petit Pays avec Jean-Paul Rouve, tiré du livre de l'écrivain franco-rwandais Gaël Faye. Vous entendrez l'émotion sur place grâce à Nathalie Chevance. Et puis à 19h30, à 4 jours des municipales, un coup d'œil ce soir sur la ville de Bobigny. Bobigny qui vient de vivre des mois de campagne dingues, dignes d'une série télé. Maire sortant accusé d'arrangement avec les gangsters des cités, locaux de l'opposition incendiés, pression en tout genre. Mais que se passe-t-il à Bobigny? On tentera d'y voir plus clair ce soir. Et puis 19h45, elle s'appelle Douli. Elle est humoriste. Qui est-elle? La protégée de Blanche Gardin. Et son portrait nous sera signé Diane Chenouda.
Votre grand journal du soir jusqu'à 20h sur Europe 1, c'est avec Isabelle Millet et Nathalie Lévy. Vous écoutez Europe 1, il est 19h.
Faut le faire quand même, faut bloquer. Pour le boulot, c'est compliqué, mais bon, faut faire ça. Parce que ça, c'est la santé.
Alors que l'OMS parle désormais de pandémie et que l'Italie se barricade, faut-il fermer la frontière franco-italienne? On sera sur place dans ce journal.
Et on sera également aux côtés des ultras qui ont bien l'intention de donner de la voix à l'extérieur du Parc des Princes ce soir, malgré le huis clos pour le match PSG Dortmund.
C'est la toute première journée nationale d'hommage aux victimes du terrorisme. Emmanuel Macron cet après-midi aux côtés du roi d'Espagne. Depuis la fin du procès des époux Fillon, le jugement sera rendu le 29 juin.
Et Anissa, le ciel?
Du beau pour le sud-est. Partout ailleurs, c'est du gris, de la pluie et du vent. Je vous donne tous les détails à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Isabelle Millet, Nathalie Lévy.
Coronavirus oblige, c'est donc à huis clos, sans supporters, que le PSG reçoit ce soir les Allemands de Dortmund au Parc des Princes.
Ligue des champions, 8e de finale retour des Allemands qui s'étaient imposés 2-1 à l'aller. La pression est donc énorme sur les épaules des Parisiens. On rappelle que depuis 2016, Paris n'a plus atteint les quarts de finale de cette compétition. Étrange soirée en tout cas en perspective, même si certains supporters vont quand même tenter de donner de la voix. Alors pas dans le stade puisque c'est interdit, mais à l'extérieur, non loin du Parc des Princes, Porte d'Auteuil, vous vous trouvez pour Europe 1, Christophe Lamar. Ils sont déjà là ?
Oui, ils sont déjà là, environ un millier, peut-être un petit peu moins, entre 600 et 1000 supporters du Paris Saint-Germain qui ont répondu à l'appel du collectif Ultra Paris. Ils ont décidé de venir soutenir à leur manière les joueurs du Paris Saint-Germain. Ils ont notamment emprunté le boulevard de la Porte d'Auteuil, l'avenue, pardon, de la Porte d'Auteuil, pour tenter de se rendre au plus près du Parc des Princes. L'idée, bien sûr, c'est d'être là au moment où les joueurs vont arriver en bus. Et à ce moment-là, bien sûr, et bien de leur manifester leur soutien. Pour le reste, franchement, ceux que j'ai rencontrés m'ont expliqué qu'ils avaient bien l'intention de voir le match à la télévision, chez des amis. On est déjà en train de s'organiser pour trouver un appartement, une maison où on pourra regarder le match. Et peut-être qu'il en restera certains devant le parc pour faire du bruit, mais tout va dépendre évidemment des consignes de la préfecture de police de Paris. Auront-ils le droit de rester près du virage Auteuil ou devront-ils au contraire s'en éloigner? On le saura d'ici une demi-heure, trois quarts d'heure.
Mais je pense qu'ils seront plutôt tous derrière leur poste de radio, évidemment, puisque grande soirée spéciale en direct et en intégrale ce soir. Sous la houlette de Lionel Rosso pour ce match. Rendez-vous dès 20h. Merci en tout cas Christophe Lamar devant le Parc des Princes, Porte d'Auteuil, aux côtés donc des ultras.
Les derniers développements maintenant concernant le coronavirus. Et pour la première fois, l'Organisation mondiale de la santé a annoncé tout à l'heure que l'épidémie du Covid-19 constituait désormais une pandémie. Ça y est, le mot est prononcé. L'OMS qui évoque des niveaux alarmants de propagation et s'inquiète de l'inaction de certains États.
Alors qu'en France, ce soir, le ministère de la Santé indique que toutes les visites dans les EHPAD et les unités de soins de longue durée sont suspendues. On apprend par ailleurs que tous les établissements scolaires de Corse, cette fois, sont fermés jusqu'au 29 mars. En Italie, les régions de Vénétie et de Lombardie s'apprêtent à passer en confinement total, c'est-à-dire, comme ce fut le cas pour les villes chinoises, interdiction de tout déplacement et de toute activité.
Un pays sous cloche et ses répercussions, notamment à la frontière franco-italienne. Où vous vous trouvez, Frédéric Michel, vous êtes précisément au poste frontière de Menton.
Oui, désormais, il faut montrer patte blanche pour circuler en Italie, mais les contrôles à la frontière, j'ai pu le constater, restent aléatoires, même si des policiers et militaires italiens, masques sur le nez, sont très visibles.
Un motif de travail, un motif de santé, ou pour rentrer à la maison.
Les Italiens qui se déplacent doivent donc être munis d'un laissez-passer, comme Francesca, qui travaille à Monaco.
C'est une déclaration du ministère de l'Intérieur. On est dans une zone rouge et on va travailler quand même. Quand toute l'Italie reste à la maison. Nous, on a peur. Nous, on préfère rester à la maison.
Ce matin, je suis passé tranquille, normalement. Là, ça bloque, ouais, mais il faut le faire quand même. Il faut bloquer. Pour le boulot, c'est compliqué, mais bon, il faut faire ça. Parce que ça, c'est la santé.
Moins de compréhension pour cette Française qui tentait en voiture d'aller faire quelques achats à Vintimille.
C'est n'importe quoi, parce que là, ils nous disent « Vous pouvez y aller à pied, mais pas en voiture ».
Et c'est vrai qu'à pied, il n'y a aucun contrôle côté italien pour franchir la frontière.
Là, on revient de la frontière pour acheter des cigarettes en Italie. On est passé à pied, oui, sans problème.
On se lave les mains, on est propre, on s'approche de personne et puis voilà.
Alors vous l'entendez, pas d'affolement ici à la frontière, mais plutôt de l'incrédulité face à l'action des autorités italiennes.
Le reportage de Frédéric Michel, donc à la frontière franco-italienne. Emmanuel Macron s'exprimera demain soir à la télé à 20h pour faire le point sur la situation dans notre pays.
Oui, une intervention présidentielle que vous pourrez suivre en direct demain sur Europe 1 et le débrief dans la foulée avec cette information la supplémentaire à l'instant. On apprend ce chiffre, plus de 20 000 personnes contaminées par le coronavirus en Europe.
Alors qu'un conseil des ministres un petit peu spécial s'est tenu ce matin. La réunion s'est passée dans la salle Murat, qui est plus grande, et chaque ministre était éloigné d'une distance de sécurité nécessaire, bien sûr, en ces temps d'épidémie. Le directeur de cabinet d'Emmanuel Macron, lui, a été testé finalement négatif. Ça veut dire qu'il n'y a aucun cas à l'Élysée. Quant au ministre de la Culture, qui, lui, a été testé positif, il va bien d'après la porte-parole du gouvernement. C'est la première aujourd'hui et elle aura lieu désormais chaque année le 11 mars, la première journée nationale d'hommage aux victimes du terrorisme.
Emmanuel Macron a présidé d'ailleurs une cérémonie tout à l'heure au Trocadéro à Paris, aux côtés du roi d'Espagne, Jean-Gabriel Bourgeois.
Une cérémonie solennelle sur le parvis du Trocadéro face à la Tour Eiffel, ponctuée de chants et de lectures symboliques. La Déclaration universelle des droits de l'homme, l'Aude à l'amour interprétée par Abdel Malik, ou encore évidemment de France Gall. Les noms des villes victimes d'attentats sont égrenés, Magnanville, Strasbourg, Paris, Trèbes. La nation entoure les familles, les proches de ceux qui sont tombés, de toute son affection, assure Emmanuel Macron dans son discours.
Les droits des victimes du terrorisme sont désormais équivalents à ceux des victimes de guerre. Les enfants orphelins deviennent des pupilles de la nation. Ils sont pris sous l'aile protectrice de la République.
Un geste de reconnaissance pour Paul Vitani de l'association des oubliés de l'Oyoda, une prise d'otage à Djibouti en février 1976.
Les victimes sont parfois oubliées dans le temps, avec le « nous ça fait 44 ans », donc c'est fondamental pour la première fois aujourd'hui pour nous d'être reconnus comme victimes du terrorisme.
Cette journée nationale d'hommage aux victimes du terrorisme sera dorénavant célébrée tous les ans dans une ville différente.
Le reportage de Jean-Gabriel Bourgeois au Trocadéro à Paris, donc pour cette première cérémonie nationale d'hommage aux victimes du terrorisme. Le producteur Harvey Weinstein, coupable de viol et d'agression sexuelle, condamné ce soir à 23 ans de prison. Son avocate fait appel, elle juge cette condamnation obscène. Le procureur a lui salué l'envoi d'un prédateur derrière les barreaux.
Et les États-Unis nous restent, et où le candidat à la Maison-Blanche Bernie Sanders annonce qu'il reste en lice pour l'investiture démocrate malgré une série de défaites sévères face à son rival Joe Biden.
En France,
la fin du procès des époux Fillon pour soupçon d'emploi fictif.
Et oui, Salomé Laurent, vous avez suivi ce procès qui s'achève donc ce soir après une longue journée consacrée aux plaidoiries de la défense.
Oui, avec l'avocate de Pénélope Fillon d'abord, qui décline sa plaidoirie autour de la question « Qui pouvait faire mieux qu'elle ?» Les gens s'en moquent, qu'elle soit rémunérée ou non. Ce qu'ils veulent, c'est la femme du député, estime-t-il. Elle est discrète, timide, oui. Mais pour les électeurs ruraux de la Sarthe, mieux vaut avoir Cécilia Sarkozy ou Pénélope Fillon. Ils scandent ensuite, une fois dissipés les rires du public. Elle est simple, elle n'est pas fière, elle n'est pas parisienne. Mais sur la réalité concrète des tâches réalisées par sa cliente, toujours rien ou si peu, l'avocat balaye. Qui va garder 10 ans, 1 an, même quelques mois après ce genre de notes ? Depuis 3 ans, dit-il, elle s'est recroquevillée sur elle-même. Elle en est venue à détester son propre prénom. L'avocat de monsieur enchaîne ensuite et atomise le travail des juges d'instruction. Un roman, une enquête folle au cours de laquelle seuls les témoins à charge ont été entendus avec empressement. Les autres ont été ignorés. Alors il les liste, les relie, les additionne. 9 personnes qui connaissaient le contrat entre les deux époux. 3 qui détaillent le travail et la réalité des tâches effectuées par Pénélope Fillon. 4 préfets qui l'ont vu à ses côtés. Représentation, agenda, courrier. Il reprend les domaines d'intervention de Pénélope Fillon et claque, un repas des anciens nécessite autant d'attention qu'un discours au perchoir de l'Assemblée. C'est ça aussi, la politique.
Salomé Legrand qui a donc suivi pour Europe 1 ce procès des époux Fillon. Jugement le 29 juin.
Merci Isabelle Millet. 19h30, un nouveau point avec vous sur l'info. Et Anissa nous dit que 6 départements sont toujours placés en vigilance orange. Hein.
Oui, effectivement, c'est une vigilance orange crue inondation. Il s'agit du Pas-de-Calais, la Seine-Maritime, l'Eure, la Vendée, la Charente-Maritime et la Gironde. Alors, il faut savoir que sur ces 6 départements, il va encore pleuvoir demain. Donc, prudence toujours dans ces secteurs. Alors, la journée sera plutôt ensoleillée et au sec dans le sud, sur le quart sud-est, du Languedoc-Roussillon à la vallée du Rhône, sur tout le pourtour méditerranéen et la Corse. Là, le temps demain reste sec avec même quelques passages nuageux, mais rien de très inquiétant. Et puis un petit peu plus au nord, sur une bande allant de la Nouvelle-Aquitaine jusqu'à l'Alsace, et bien là, le ciel se charge en nuages avec des précipitations tout au long de la journée. Au nord, à l'arrière de cette perturbation, c'est un ciel de traîne qui se met en place et qui vous apporte dans la journée des éclaircies, des averses et des nuages. Voilà, ça va alterner comme ça tout au long de la journée. Les températures, elles sont toujours aussi douces, 6 à 10 degrés demain matin. Au meilleur de la journée, nous aurons 12 degrés à Caen et Lorient, 13 à Paris et Nice, 14 pour Châteauroux, 19 à Carcassonne et 21 degrés pour Grenoble.
Europe 1.
La suite de votre grand journal du soir, Nathalie Lévy.
Avec l'interview politique et votre invité ce soir, Aurélie Herbemont, bonsoir.
Bonsoir, mon invité ce soir, François Calfon. Il est membre du bureau national du Parti Socialiste et conseiller régional d'Île-de-France. Le PS peut-il retrouver des couleurs avec les municipales ? On en parle avec lui.
Et l'interview politique d'Aurélie Herbemont, c'est dans un instant dans votre grand journal du soir sur Europe 1. Vous écoutez votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Nathalie Lévy. Et Nathalie, c'est l'heure de l'interview politique d'Aurélie Herbemont.
Avec son invité ce soir dans ce studio, François Calfon, conseiller régional d'Île-de-France et membre du bureau national du PS.
Bonsoir François Calfon.
Bonsoir.
Pour faire face au coronavirus, le ministère de la Santé a annoncé la semaine dernière que les hôpitaux allaient récupérer 260 millions d'euros de crédits non consommés en 2019. Ça s'ajoute aux 415 millions dégelés en décembre, avant cette crise. Le versement des dotations 2020 sera aussi accéléré. Est-ce suffisant ?
Écoutez, c'est pas le moment de faire de la polémique, mais ça fait combien de mois, voire combien d'années, qu'on dit que l'hôpital est en grand risque ? Hein, on voit bien chez nos voisins italiens à quel point une crise sanitaire comme ça peut être un crash test, qui est plutôt un crash qu'un test d'ailleurs, sur nos systèmes d'urgence. Donc on a retardé le pic épidémique, mais c'est clair qu'il faut un plan d'urgence pour l'hôpital, tout comme cette crise a révélé aussi que fabriquer très loin ce qu'on consomme ici est irresponsable. Car je tiens à le dire ce soir, je pense à tous les entrepreneurs, à tous les salariés, les premières victimes très fortes de ce coronavirus, c'est d'abord nos entreprises, c'est d'abord l'activité économique.
Le gouvernement, d'ailleurs, veut des mesures de soutien
aux entreprises. Le gouvernement,
il
serait bien inspiré, comme les centrales syndicales lui demandent, bien tout simplement de reporter cette réforme de l'assurance chômage.
Pourquoi ?
Mais parce que si elle s'applique, vous avez 1 million de demandeurs d'emploi, et on va en prendre des demandeurs d'emploi, qui seront privés de droits par la simple application de cette réforme de l'assurance chômage. Donc, est-ce qu'on a besoin de ça maintenant ? J'ai entendu que peut-être pour des raisons de bon sens ou peut-être pour des raisons financières, nous reportions la privatisation d'aéroports de Paris.
D'aéroports de Paris.
Je veux être positif ce soir en disant que c'est peut-être des raisons de bon sens, c'est pas que des raisons financières. Comme Madame la sous-secrétaire d'État à l'économie nous a indiqué, il est temps d'acheter en bourse. Bon,
Vous parlez d'Agnès Pannier-Runacher.
Fermons la parenthèse. Mais en fait, il faut des mesures sectorielles extrêmement puissantes, hein, c'est clair. Je crois qu'on va desserrer la contrainte des 3% et du déficit public. On a beaucoup parlé de reporter les charges pour les PME, TPE, notamment du secteur de l'événementiel ou du tourisme.
Le monde de la culture, bon. Du tourisme,
et moi,
qui souffre beaucoup.
Je crois qu'il faut le dire très fortement, à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle, peut-être que sur le trimestre de pic d'épidémie dans lequel nous sommes, c'est pas le report des charges qu'il faut, c'est l'annulation des charges. Car après tout, c'est un boulet que ces entreprises vont continuer à porter bien au-delà du pic épidémique dans lequel nous sommes.
Alors, il y a donc les conséquences économiques, sanitaires, évidemment. Et puis, il y a dimanche, le premier tour des élections municipales. Est-ce que vous redoutez que la participation soit affectée par cette épidémie ?
Redouter, c'est céder à la peur d'une certaine manière. Mais est-ce qu'il y a une possibilité que ce soit le cas ? Oui, il y a une possibilité que ce soit le cas. Moi, j'ai envie de dire aux Français, ne cédez pas à la panique, venez voter et peut-être échelonnez vos heures de vote. Hein, vous savez, dans les bureaux de vote, pour en avoir tenu beaucoup dans ma vie, il y a énormément de gens au début et souvent des personnes âgées, énormément de gens à la fin et puis le dimanche, à l'heure du gigot, à 15h, il n'y a plus personne. Donc peut-être que chacun doit pouvoir étaler ses périodes de vote et je compte sur le ministère de l'Intérieur ainsi que les mairies, mais les maires font leur travail hein, dans leur grande majorité, pour que des mesures de précaution soient prises. On emmène son stylo, on emmène son gel hydroalcoolique. Et puis voilà, et puis ça devrait bien se passer.
Ça devrait bien se passer. Alors ça, c'est sur le volet peut-être du scrutin en tant que tel. Alors François Calfon, on entend depuis plusieurs semaines Emmanuel Macron qui banalise cette échéance des élections municipales en disant que c'est une élection locale, qu'il n'en tirera pas forcément de conséquences nationales. Est-ce que c'est la bonne analyse de la part du président ?
Comme d'habitude, c'est du pipeau, hein, pour parler simplement. Parce qu'il est quand même allé débarquer Mme Buzyn, rappelons-le, qui était ministre de la Santé à la veille de cette crise du coronavirus, pour la placer pratiquement de force comme candidate à la mairie de Paris. Donc, pour quelqu'un qui se
désintéresse... De force, vous y allez peut-être un petit peu fort.
Je sens qu'elle a été fortement invitée, comme on dit, hein, puisque vous souhaitez être poli, continuons à l'être. Mais vous voyez bien qu'il s'est impliqué, qu'il a mis les mains dans le cambouis. Alors, la première fois... manque de bol, c'était avec Benjamin Griveaux, n'y revenons pas, mais enfin il s'y est impliqué. Le sujet des élections municipales, ce qu'on peut dire, c'est qu'il faut imposer finalement une sorte de censure démocratique à La République En Marche, de ce gouvernement qui n'entend personne, puisque je vois qu'ils n'ont toujours pas abandonné l'âge pivot dans la conférence de financement sur les retraites. Il faut qu'un message très clair soit envoyé au chef de l'État. Il le sera, me semble-t-il, car finalement, autant nous ne pouvons pas dire qui gagnera, mais on sait déjà que La République En Marche est en mauvaise posture. Alors, il ne s'agit pas d'être dans la revanche, mais il s'agit d'envoyer un carton jaune à ce gouvernement qui, décidément, n'entend pas les Français sur des sujets essentiels tels que l'organisation de la solidarité et avant, je le rappelle, l'organisation de la santé puisque l'hôpital est en grande difficulté.
Alors François Calfon, on va rappeler pour nos auditeurs que vous êtes bien placé au Parti Socialiste pour avoir vécu un vote sanction. Rappelons que les municipales de 2014, c'était le PS qui était au pouvoir. Vous aviez perdu plus de 150 villes de plus de 9000 habitants. Là, En Marche, finalement, n'a pas grand-chose à perdre vu qu'ils partent de très bas.
Bah, ça d'accord, mais enfin, si vous voulez... Ils vont être scotchés en fond de cale, si j'ose dire, en train de ramer. Je ne crois pas que ce soit très brillant. pour finalement le parti du chef de l'État dont on nous expliquait, souvenez-vous, il n'y a pas très longtemps, que c'était le nouveau monde et qu'on allait voir ce qu'on allait voir. On a vu beaucoup de choses, mais on n'a pas vu un nouveau monde enchanteur et réconciliateur.
Est-ce que ces municipales, pour le Parti Socialiste, c'est un peu le scrutin de la survie après les municipales de 2014, j'en ai parlé, et les 6% à la présidentielle, 6% encore aux européennes?
Moi, je ne vois pas du tout les choses comme ça. Il se trouve qu'il y a un agenda médiatique, c'est votre rôle de le suivre d'une certaine manière, mais moi, je sais que... à Nantes, à Rennes, à Lille, à Paris, dans beaucoup de métropoles, les gens sont contents du travail qui sont faits par nos maires sortants et que nous avons su, finalement, nous inscrire dans des rassemblements très larges de la gauche. Or, finalement, que veulent les gens? Ils veulent de la responsabilité, ils veulent du social, ce qu'ils n'ont pas au niveau national. Avec les socialistes, ils l'ont, et ils veulent une prise en compte de la mutation écologique. Et nous sommes dans des alliances très larges avec nos amis écologistes un peu partout. Donc alors, je crois que ça correspond assez à ce que les gens souhaitent.
Alors justement, vous parlez de l'aspiration écologiste. Dans les sondages, les listes écolo, on le vend en poupe. Est-ce que le PS va devenir le supplétif des Verts après des années où ce sont les Verts qui avaient été les supplétifs du PS?
Écoutez, ça, c'est des questions... Déjà, si on regarde un tableur Excel, au soir des élections, je vous donne rendez-vous dimanche soir et encore plus dans 15 jours, vous verrez que, il ne s'agit pas de faire des concurrences, on n'est pas dans cette logique-là, mais vous verrez que des villes animées par des premiers magistrats socialistes, il y en a une majorité, y compris à gauche, que ce soit bien clair. Après, si nous avons le bonheur, avec nos amis écologistes, de conquérir un certain nombre de villes, non pas pour le plaisir de la conquête, mais pour un autre travail, mais nous le ferons avec bonheur.
Eh bien, merci beaucoup François Calfon d'avoir été mon invité.
Europe 1. La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 avec vous, Nathalie Lévy.
Oui, avec une question qu'on va se poser à 19h30. Que se passe-t-il à Bobigny, en région parisienne? Une campagne pour les municipales complètement dingue, perturbée par les affaires, les coups bas. Eh oui, un peu comme une série télévisée. Des arrangements, des gangsters des cités, des locaux d'opposition incendiés, pression, bref, tout y est passé. On en parle avec mes invités à 4 jours du premier tour. Comment peuvent-ils faire campagne de manière à peu près normale? On va leur poser la question.
Vous écoutez Nathalie Lévy jusqu'à 20h sur Europe 1. La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 à 19h23, Nathalie Lévy, chaque soir. On s'intéresse à ce qui va se passer demain. On prend un temps d'avance pour écouter le monde changer.
Et oui, on file demain en France. On va s'interroger sur les conditions particulières du vote de dimanche, dans 4 jours, premier tour de ces municipales sur fond de coronavirus, avec toutes les inquiétudes qui vont avec et la prévention liée au virus. Bonsoir Stéphane Place.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
Alors, illustration à Bordeaux, où chacun des 147 bureaux de vote sera soumis à des mesures préventives.
Absolument, avec bien sûr des affichettes rappelant aux électeurs les gestes barrières que l'on connaît bien désormais, la possibilité aussi pour chaque citoyen d'arriver avec son enveloppe déjà prête contenant le bulletin de son choix parmi ceux que l'on reçoit à domicile en ce moment. Ça évite une manipulation et donc un point de contact dans le bureau de vote, où d'autres dispositions sont prévues, comme l'explique Isabelle Sault de la direction de l'accueil et de la citoyenneté à la mairie de Bordeaux.
Dès son entrée dans le bureau de vote, il trouvera l'indication du point d'eau qui lui permettra d'aller se laver les mains avant de pouvoir aller voter. Les isoloirs resteront légèrement entrouverts pour ceux qui ne souhaiteraient pas être en contact avec les rideaux. Après, libre à chaque électeur de le refermer ou pas. Nous les inciterons à jeter eux-mêmes leur bulletin pour que les tablettes restent vides. Elles seront désinfectées régulièrement. Un stylo, donc ça c'est un point important. Nous conseillons aux électeurs de venir avec leur propre stylo bleu, noir et à encre indélébile. Une fois qu'ils ont signé le cahier d'émargement, la carte sera présentée par l'électeur lui-même pour être tamponnée et ils pourront se laver les mains aussi en sortant du bureau de vote.
Et puis, comme beaucoup de bureaux de vote sont installés dans des écoles qui accueilleront des classes dès le lendemain de ce premier tour, ça, je savais que c'était un point sensible pour la maman que vous êtes, Nathalie, eh bien, la municipalité de Bordeaux, et ce sera sans doute vrai ailleurs, a prévu des opérations de désinfection des locaux dimanche et lundi matin, avant que les enfants, bien entendu, viennent en classe.
Non, mais c'est important à préciser, je pense, pour tous ceux qui nous écoutent. Absolument. Aussi. Merci beaucoup, Stéphane Place, et puis on verra si Emmanuel Macron, demain, quand il prend la parole à 20h, en rajoute, effectivement, sur toute la logistique autour de ce vote. On est à 4 jours. Merci beaucoup Stéphane, correspondant Europe 1 à Bordeaux, soirée électorale à laquelle vous participez dimanche et que vous pourrez suivre, vous auditeurs, de 19h30 à 22h30 sur Europe 1. Demain dans le monde, un peu spécial ce soir, en direct précisément de Kigali. Oui, ça n'arrive pas tous les jours parce que mercredi prochain sortira en salle un film, Petit Pays, avec Jean-Paul Roux, film Europe 1, tiré du livre de l'écrivain franco-rwandais Gaël Faye. Alors le film vient d'être présenté en avant-première à Kigali, en présence de cet écrivain, une projection chargée d'émotions pour celui qui a grandi au Burundi, mais dont une partie de la famille est originaire du Rwanda. Margot Chevance, bonsoir.
Bonsoir Nathalie.
Vous êtes sur place, hein. Vous êtes précisément à Kigali. Le film a été entièrement tourné au Rwanda, vous avez assisté à cette avant-première. Dites-nous un peu, racontez-nous un peu l'ambiance de cette soirée.
Eh bien, il y avait une véritable effervescence, énormément d'invités, trois salles pleines à craquer. La première dame, Jeannette Kagame, était même présente. Il faut dire que le film suscitait beaucoup d'attentes au Rwanda, car c'est ici qu'il a été tourné, entre Kigali et le lac Kivu, dans le nord-ouest du pays. Alors c'est vrai que l'histoire se passe au Burundi, dans les années 90, au début de la guerre civile, mais ce n'était pas possible d'aller y tourner aujourd'hui, parce que la situation politique ne le permettait pas. Donc Éric Barbier, le réalisateur, à la place, il a décidé de miser sur le Rwanda. Il s'est appuyé quasiment que sur des acteurs locaux, la plupart amateurs, et qui pouvaient justement s'inspirer de leur vécu.
On a pris des gens qui sont des réfugiés burundais et qui sont dans le camp Amahama à la frontière de la Tanzanie, qu'on a fait venir ici, et c'est eux qui vont faire les bandes de Bujumbura et dans lesquelles ils vont, eux, mélanger une langue un peu typiquement de Bujumbura, c'est-à-dire le swahili, le kirundi, le français.
Voilà, donc on sent vraiment que le réalisateur a voulu coller à la réalité du roman de Gaël Faye.
Et Margot, dites-moi, quelles étaient les réactions des spectateurs à la sortie du film ?
Il y avait beaucoup d'émotions, parce que l'histoire de Petit Pays, eh bien, elle résonne. Ici, au Rwanda, la maman du héros, Gabi, est une Rwandaise, Tutsi, réfugiée au Burundi depuis les années 60 à cause de la montée des tensions dans son pays. Et elle assiste aussi, impuissante, au début du génocide contre les Tutsis au Rwanda en 94, et elle sombre petit à petit dans la folie. Et tout ça, cet exil-là, ces souffrances, eh bien ça parle au public à Kigali, comme le raconte ce spectateur à la fin de la projection.
Même si on essaie de construire un pays, un avenir sans vraiment l'identité ethnique, mais c'est quelque chose qu'on a vécu, qu'on a grandi avec, et on essaie de s'en sortir.
Et puis j'ai croisé un autre homme dans la foule et lui, il avait les larmes aux yeux.
Parce que c'est une histoire qui a été partagée par beaucoup de familles, beaucoup de gens. L'exil, la peur, la crainte, la perte des gens, se retrouver. Donc tout ça est reproduit dans le film. Et puis voilà, là je suis encore en train d'analyser mes émotions.
Et justement Margot, cette histoire c'est aussi celle de l'actrice principale même, la Rwandaise Isabelle Cabano. Hein.
Exactement, Isabelle Cabano qui joue la maman du héros. Elle s'est réfugiée avec ses parents en République démocratique du Congo. Elle a perdu une grande partie de sa famille pendant les massacres au Rwanda en 1994. Et c'est ce qui rend justement sa performance la plus poignante. C'est ce vécu qu'elle retransmet avec tellement de justesse. Et d'ailleurs, Gaël Faye a dit que c'était elle qui portait véritablement le film.
Merci beaucoup Margot Chevance à Kigali. Beaucoup d'émotions, donc merci. Le film sort le 18 mars en France. Un beau film européen, Gaël Faye, qui sera l'invité dimanche matin de Patrick Cohen entre 9h et 10h.
Europe 1. À suivre, Nathalie Lévy.
Le rappel des titres d'Isabelle Millet, c'est dans moins d'une minute. Et puis à 4 jours des municipales, un coup d'œil ce soir sur Bobigny. C'est un parti pris, hein, parce que ces mois de campagne ont été dignes d'une série télévisée. Maire sortant accusé d'arrangement avec les gangsters des cités, locaux d'opposition incendiés, pression en tout genre. Et l'élection dans tout ça, comment fait-on campagne? On en parle avec nos invités. Ils sont candidats sur place, ils nous rejoignent dans ce studio.
19h30 sur Europe 1, votre grand journal du soir, Nathalie Lévy.
Et votre rappel des titres, Isabelle Millet.
Et pour la première fois, l'Organisation mondiale de la santé estime désormais que l'épidémie de Covid-17 constitue une pandémie. Plus de 20 000 personnes ont été contaminées en Europe. En France, 15 nouveaux décès, indique ce soir le ministre de la Santé, Olivier Véran. 2281 personnes contaminées depuis la fin janvier, mais pas de passage au stade 3 pour l'instant. Le ministère de la Santé indique que toutes les visites dans les EHPAD et les unités de soins de longue durée sont désormais suspendues. Par ailleurs, tous les établissements scolaires de Corse resteront fermés jusqu'au 29 mars, ainsi que dans 16 communes autour de Montpellier. C'est à huis clos, sans supporters, donc, que le PSG reçoit tout à l'heure Dortmund au Parc des Princes. À l'aller, les Allemands s'étaient imposés 2-1. Depuis 2016, Paris n'a plus atteint les quarts de finale de cette compétition. Grande soirée foot dès 20h sur Europe 1. Le match sera à suivre en direct et en intégralité. Toujours à cause du coronavirus, l'Inde place en quarantaine les voyageurs en provenance de 7 pays et suspend l'attribution de tous les visas de tourisme. Harvey Weinstein condamné à 23 ans de prison ce soir, peine exemplaire pour l'ancien producteur. Et puis la fin du procès des époux Fillon pour soupçon d'emploi fictif. Jugement le 29 juin.
Merci Isabelle Millet. L'info revient à 20h. Anissa, bon bah du gris, encore du gris.
Oui, c'est ça. C'est vrai qu'on a l'impression de se répéter depuis plusieurs jours, mais c'est un petit peu le même temps qui se répète chaque jour. Alors demain, il faut savoir que le temps sera très couvert sur une grande partie du pays, avec une perturbation qui va traverser la France. Alors nous aurons dans la matinée une large bande diagonale qui va couper la France de l'Aquitaine jusqu'à l'Alsace. Là nous aurons des précipitations et puis elle va se décaler vers le sud, se rétrécir. À l'arrière de cette perturbation sur l'extrême nord, nous aurons une journée qui sera partagée entre nuages, éclaircies et averses. Et en fait c'est uniquement au sud, le long de la Méditerranée et sur le quart sud-est que la journée sera la plus agréable, avec un temps sec et de belles éclaircies. Les températures, elles sont douces demain, 6 à 10 degrés le matin, 11 à 21 degrés demain après-midi, 20 à Lyon, 21 pour Grenoble.
Europe 1.
La suite de votre grand journal du soir, Nathalie Lévy, avec vos invités ce soir.
Oui, on est à 4 jours du premier tour, alors on a décidé ce soir de zoomer. De zoomer sur une commune de Seine-Saint-Denis qui vient de vivre des mois de campagne électorale assez fous, hein, digne même d'une série télé type Baron Noir. Maire sortant accusé de clientélisme et d'arrangement avec les gangsters des cités, locaux de l'opposition incendiés, pression en tout genre. Et l'élection dans tout ça. On est à Bobigny, donc ce soir, et précisément dans ce studio, on reçoit pour en parler José Maury. Bonsoir, bienvenue.
Bonsoir.
Candidat PCF et Fouad Benhamed, bonsoir à vous.
Bonsoir.
Bienvenue également. Vous êtes-vous candidat socialiste ? Dites-moi.
Pas tout à fait. Je suis socialiste, mais je porte une liste citoyenne.
Très bien, merci pour la précision. Alors qu'est-ce qu'on se dit, messieurs, à 4 jours du premier tour, comment on fait campagne sur un projet quand celle-ci a été parasitée ainsi par les affaires ? José Maury.
Bah, y a un seul moyen, c'est d'aller à la rencontre directe des habitants. Nous, on a fait le choix en fait, de faire abstraction de ce contexte. Et ça fait 3 mois qu'on est en porte-à-porte, qu'on est en rencontre diverse, qu'on a bâti notre programme. Parce qu'effectivement, si on s'en tient, je dirais, au climat médiatique et aux pressions en tout genre, ben, on ne fait pas campagne et on arrête tout de suite.
Donc vous allez nous dire ce que sont vos propositions concrètes dans un petit instant, justement. Je vous pose quand même la même question à vous, Fouad Benhamed, parce qu'on ne peut pas dissocier aujourd'hui le climat de la campagne, même de la manière dont vous avez procédé, vous, pour arriver jusqu'ici aujourd'hui.
Ce climat, en fait, il ne date pas de la campagne, il ne date pas d'hier, il date depuis 2014. Nous, à l'époque, on avait fait un tract qu'on a distribué dans les marchés dénonçant le clientélisme organisé de la municipalité. On a été attaqué par le maire en diffamation et on a fait condamner le maire, justement, à nous verser des dommages et intérêts. Donc, dès qu'ils ont pris leurs responsabilités, il y a eu un climat. Et d'ailleurs, les seules forces d'opposition aujourd'hui qui ont été en capacité de pouvoir faire face ont été donc les syndicats, la CGT, et en partie aussi notre groupe Point Commun, puisqu'on a réussi à avoir un bilan sans être élu.
Alors, comment ça se passe aujourd'hui dans cette campagne ? Vous essayez d'y aller sur les marchés, vous êtes au contact de la population, mais vous arrivez vraiment à avoir une proposition concrète qui les gens ne retiennent pas uniquement le climat ? Non, ils vous disent pas, stop, arrêtons le système, c'est pas là-dessus qu'on vous attend en priorité.
Alors, fort heureusement, comme je vous l'ai dit, on a des rencontres. Alors, il y a différentes...
Oui, mais ils vous challengent pas là-dessus ?
Non, il y a les difficultés qu'on retrouve dans toutes les campagnes, c'est déjà la multiplicité des listes. C'est-à-dire, quand vous êtes sur un marché, que chaque liste vient avec une vingtaine de personnes, ben, vous vous retrouvez, quand il y a 9 listes avec 180 personnes, là j'exagère un peu, mais sur un marché, donc c'est surtout ça que les gens déplorent. Après, effectivement, les gens nous disent, nous on veut parler de l'avenir.
Alors, donnez-nous les mesures phares de votre projet en quelques mots.
Les mesures phares de notre projet, déjà, c'est, vu la municipalité dont on sort, ce que disait M. Benhamed, c'est restaurer déjà une municipalité normale avec de la probité, des élus qui sont là pour l'intérêt général et pas pour servir l'intérêt particulier de quelques-uns. Ça, c'est ce qui nous a été demandé en premier. C'est-à-dire c'est qu'on voulait parler de politique. On nous a dit, attendez, avant tout ça...
C'est ça, le préalable, nous, c'est assainir.
La première chose qu'on a faite, c'est de produire une charte éthique des élus qu'on a tous signée et qui est la base de notre engagement.
Vous, de votre côté, Fouad Benhamed ?
De notre côté, moi, je répondrais plutôt oui, vous avez raison. Les habitants nous disent, quand on les rencontre, on en a assez. D'une part, la ville, elle est stigmatisée, elle est salie. Aujourd'hui, quand on fait... nous, des demandes, par exemple, de logement de personnes qui ont 12 ans, 14 ans d'ancienneté, c'est un village, Bobigny. Tout le monde sait, les gens savent qui reçoit un logement alors qu'ils ont 3 mois d'ancienneté. Ouais. C'est une préoccupation très importante. Et les habitants disent plus jamais ça. Mais par contre, ils ont une vraie défiance envers les professionnels de la politique. C'est-à-dire qu'ils disent, il y a des gens en fait qui vivent de la politique et nous, notre liste, elle est 100% citoyenne. Et je pense qu'il faut se mettre à la place des citoyens.
Vous, c'est ça, c'est là-dessus que vous jouez, c'est ça que vous dites qui peut faire la différence aujourd'hui.
Et bien sûr, il y a le programme. Nous, on a fait des cafés-débats. Oui. On a fait des cafés-débats tous les vendredis soirs avec
les
habitants.
Les grandes lignes de votre programme, vous allez nous les livrer dans un petit instant. On se retrouve là dans une seconde.
Votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy, c'est jusqu'à 20h sur Europe 1. La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1. Avec le débat de ce soir à 4 jours des municipales, Nathalie Lévy, vous recevez 2 candidats de la ville de Bobigny. José Moury, candidat PCF, et Fouad Benhamed, qui fait partie d'une liste citoyenne.
Oui, dans cette ville sur laquelle on a décidé de zoomer ce soir, parce qu'il y a eu, il y a quelques jours de cela, ce livre, Le maire et les barbares de Hesse-Fetzel, avec des révélations, une enquête sidérante qui rapporte tout ce qui s'est joué dans Bobigny depuis des années, des gangsters des cités, des arrangements avec les locaux d'opposition incendiés, des pressions en tout genre, des liens entre le maire sortant accusé d'arrangement donc avec diverses personnalités. Vous aujourd'hui, messieurs, vous êtes candidat et vous essayez d'aller convaincre les habitants de Bobigny que le préalable c'est évidemment assainir et c'est ce que vous leur promettez. On était sur votre programme, Fouad Benhamed. Quelles sont les principales mesures que vous annoncez là pour Bobigny? Que vous proposez?
Alors, sur le cadre de vie, par exemple, on sait que la question du logement est un enjeu très important sur Bobigny. Nous, on va mettre en fait un observatoire des conditions d'habitat, un observatoire de l'habitat qui nous permettra de travailler d'une part sur la décohabitation, parce qu'on sait très bien que les couples n'arrivent pas à sortir de chez leurs parents. Sur la question aussi des changements d'appartement pour les personnes âgées qui ont des 4 pièces et qui voudraient des 2 pièces, mais on ne veut pas qu'ils aillent à l'autre bout de la ville. On a aussi beaucoup de personnes qui ont des dettes locatives, donc on va mettre en place une cellule qui permettra à ces personnes de pouvoir... Alors, c'est déjà existant, cette cellule, mais elle n'est pas...
Elle est parfois pas
opérationnelle. Et je vais parler de quelque chose, j'avais dit que je n'en parlerais pas durant la campagne, mais le mépris parfois des habitants, c'est quand ils ont un ascenseur qui ne fonctionne pas depuis plus de 6 mois. Et sur cette question-là, on a déjà fait nos preuves, et par exemple, ça, on le réglera très rapidement.
Je voudrais quand même revenir à ce qui s'est joué chez vous, là, depuis des années, ce climat délétère. Comment vous, José Moury, l'avez-vous vécu? Est-ce que vous avez craint parfois pour votre sécurité au regard de ces accusations de clientélisme?
Fort heureusement, ça n'a pas été le cas pour moi personnellement, mais enfin, certains militants, oui, ça a été le cas. On parlait de quelque chose de très ancien, mais moi, je remonte même à 2008, c'est pas 2014. C'est-à-dire que les graines ont été semées dès 2008. C'est le système Lagarde. Moi,
vous mettez les pieds dans le plat, vous dites c'est le système Lagarde.
C'est le système Lagarde. C'est-à-dire qu'il a importé à Bobigny, on est dans la même circonscription, Bobigny-Drancy. Il a importé à Bobigny le système qu'il avait mis en place à Drancy, qui lui a permis de garder le pouvoir et de garder le pouvoir d'ailleurs à l'UDI, puisque l'essentiel des votants de l'UDI sont dans sa ville.
Lui, il s'est toujours défendu. Il a toujours dit que tout ça était grotesque, qu'en fait, on cherchait finalement à le sortir du jeu, qui avait des intérêts.
Quand le livre est sorti, il a presque fini par dire qu'il connaissait à peine Bobigny, qu'il n'avait pas mis les pieds. Là, il est présent en ce moment dans tous les meetings de la droite de M. Bartholmé. Donc non, on est bien dans un système. Donc les graines ont été plantées en 2008. Effectivement, en 2014, on a vu les premiers effets de cette violence. Et aujourd'hui, je dirais qu'on est presque après ce système, fort heureusement, parce que
Le jour d'après, tout ça, ça y est, ça a été évacué, c'est ce que vous dites? Je précise juste, pardonnez-moi pour les auditeurs, c'est le candidat UDI pour ces municipales, c'est Christian Bartholomé, l'actuel maire adjoint,
voilà, effectivement, condamné suite à une affaire en début de mandat. Exactement. Pour violence sur une adjointe qui était son adjointe.
Son adjointe. Je vous pose la même question, Fouad Benhamed. Vous avez-vous été victime de violence ou vous avez craint pour votre sécurité?
Alors, quand on a son local incendié, quand on a un député de la République qui nous jette à la vindicte populaire, parce que mon nom a été cité à plusieurs reprises comme étant l'instigateur de ce livre. Alors que nous, toutes les révélations qu'on a toujours faites, on les a faites en toute transparence et on les a assumées. Oui, je pense en fait qu'il y a eu une volonté d'éliminer certains candidats. Et quand je dis d'éliminer, je ne sais pas si je dois dire au sens propre comme au sens figuré, parce que cet incendie était un incendie criminel et je pense qu'on n'a pas pris la mesure de l'acte. Une personne qui habitait au-dessus. Donc, ils étaient vraiment prêts, ils sont prêts à tout. Moi, j'étais dans un quartier, je ne citerai pas le nom du quartier parce que je ne veux pas stigmatiser une partie de la population. Des personnes sont venues à 15 pour m'empêcher de tracter. Donc, moi, je ne pense pas qu'on est dans le jour d'après encore. Je pense qu'on y est toujours. Je pense qu'ils se sont organisés pour pouvoir garder la municipalité. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'il y a des intérêts à protéger. Mais en tout cas, nous, on a dit on fera une campagne digne.
Donc, pour vous, donc, le responsable, pour vous, le responsable, ça ne fait aucune ambiguïté ?
Ah non, mais il y a un système qui a organisé des communautés d'intérêts. Et quand j'ai dit des communautés d'intérêts, ça peut être une association, un club de danse ou un club de foot, etc.
Un dernier mot. On est à 4 jours du premier tour. Est-ce que vous avez peur du verrouillage des votes, messieurs ? Les deux, d'un mot, José Maury et Fouad Ben Hamed.
Du verrouillage des votes par rapport aux...
Une manière qu'il y aurait de faire pression, une dynamique qui se serait noyée.
Bah, écoutez, nous, on a alerté en tout cas suffisamment tôt le préfet qui nous a donné des garanties. Ouais. Parce qu'effectivement, en 2014, il y a eu des pressions devant certains bureaux. Donc, on a des garanties comme quoi il y aurait des interventions. On n'hésitera pas à faire appel au moindre incident. Donc, on reste confiant envers les autorités.
Et pareil.
On a signalé au préfet, on en appelle au préfet pour avoir un regard particulier sur le déroulé du scrutin. Je pense qu'aujourd'hui, dans toute la France, on est regardé. Et d'ailleurs, il y a même François Ruffin qui a alerté Castaner, le ministre de l'Intérieur, sur cette question. Donc,
vous avez jamais, pas eu réponse. Vous avez jamais échangé, vous, avec la garde Bartholomé?
Par presse interposée, moi.
Par presse interposée, oui.
J'ai été son opposant pendant 6 ans au conseil municipal, donc on a échangé, effectivement. Mais
sur le fond de ce dossier.
Sur le fond de ce dossier, lui c'est la colombe blanche, si on l'écoute. Donc forcément, il ne va pas aller chercher à se défendre.
Et puis nous, comme on a fait démissionner Christian Bartholomé d'Est ensemble, il ne souhaite plus parler.
Il ne risquait pas de vous avoir envie de vous parler. Merci beaucoup, messieurs. En tout cas, on avait envie de faire ce zoom ce soir sur Bobigny, avec tout, effectivement, tout ce que ça a comporté comme complication pour mener cette campagne. On verra donc ce qui se joue là, au premier tour, et puis ensuite dans 10 jours. Merci beaucoup.
Merci.
Merci.
Europe 1. À suivre juste avant 20h, Nathalie Lévy.
Eh bien, tout à fait autre chose, avec une découverte qui nous est proposée ce soir par Diane Chénouda, et je ne vous dis que ça.
On va rire.
Bonsoir à tous. Ouais.
Restez avec nous sur Europe 1, votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy, c'est jusqu'à 20h. La suite de votre grand journal du soir sur Europe avec Nathalie Lévy. Et nous partons, Nathalie, à la découverte d'une humoriste qui monte ce soir. Elle s'appelle Douli. Et avec vous, pour en parler, vous recevez Diane Chénouda du service culture d'Europe 1.
Et oui, hello Diane.
Hello, les filles, les girls.
Alors avec Nathalie. Vous, c'est toujours des découvertes, c'est ça qui est bien. Alors cette fois, c'est une humoriste qui pourrait être la petite sœur de Blanche Gardin. Oh là là, quand on est adoubé par Blanche Gardin quand même, ça se pose là.
Effectivement.
Elle s'appelle Douli, c'est ça? C'est un prénom, ça?
Oui, c'est son prénom. C'est son prénom depuis toujours, et c'est son nom de scène, effectivement. On peut la voir jouer en ce moment au Point Virgule à Paris. Elle rôde son nouveau spectacle, c'est son deuxième tout de même. Alors, un mot de cette Douli qui a 37 ans, physique de brindille, blonde, aux grands yeux bleus, comme ça, magnifique. Elle joue pieds nus dans une longue jupe noire, un côté hippie, vous voyez. Et surtout, elle a une voix incroyable. Écoutez ça.
Moi, c'est Douli, enchantée. Alors, avant de commencer, pour tous ceux qui se poseraient des questions, et pour éviter tout malentendu, non, je ne suis pas bourrée.
Voilà, vous voyez,
ouais, elle joue avec. Hein,
voilà, exactement, elle joue complètement de cette voix cassée, de nana bourrée, comme elle dit, alors qu'elle ne boit pas une goutte d'alcool, il faut le dire, elle ne boit que du thé. Elle le dit d'ailleurs dans son spectacle. Alors, elle était ancienne toxicomane, mais pas si addict que ça à l'alcool, visiblement, d'après ce qu'elle m'a dit. Elle a donc cette voix rauque de fumeuse, qui est effectivement le ressort de son spectacle.
Après, ça a un côté pratique. Hein. Par exemple, grâce à cette voix, j'ai évité une bonne dizaine de viols. Hein, mais si, ils se barrent en courant, les mecs, hein, vraiment.
Vous voyez, on retrouve un peu...
La signature.
De Blanche Gardin, les mêmes intonations, voilà. Ouais. Blanche Gardin, avec qui elle a coécrit son spectacle, un spectacle dont vous l'avez compris, au vitriol, sans filtre. Elles se connaissent bien, ça a tout de suite accroché entre elles. Douli est un peu devenue donc la protégée de Blanche Gardin.
Elle m'a filé un gros coup de main cet été. Ouais, on a vraiment bien bossé ensemble. Ouais, c'était chouette. Ça s'est fait naturellement parce qu'il y a des points communs.
Et oui, même passé cabossé, même si elle a quand même son propre univers, hein, oui. Douli, c'est quand même pas Blanche Gardin. Elle parle de ses addictions, de sa vie d'ancienne junkie.
Elle dissimule rien, hein, d'ailleurs.
Ah non,
hein, c'est...
Rien, rien.
C'est... Au contraire, même, non ?
Oui, ah, mais au contraire, oui. Plus elle peut dire des choses vraiment. Elle est très authentique. Ouais. Elle dit réellement, elle déroule sa vie. Elle est tombée dedans dans la drogue quand elle avait 14 ans. Ouais. Et pendant 10 ans, elle a été accro à toutes les drogues. D'ailleurs, elle dit à Stalingrad, j'ai tout pris, sauf le métro.
Il y a un jugement très drastique sur les gens qui se droguent, mais c'est pour un peu désamorcer ces trucs-là et dire à quel point c'est de la merde, bien évidemment, mais qu'on peut en rire malgré tout. Il y a des gens que ça fait du bien aussi de voir certaines personnes qui s'en sont sorties de ça, tu vois, et qui essayent aussi de s'en sortir. Donc si ça peut aider là-dessus, c'est cool, quoi.
Voilà, donc elle dédramatise quand même, comme Blanche, hein, c'est un petit bout de femme qui n'a pas sa langue dans sa poche, ça on l'a compris, elle est cash, très cash, parfois assez crue sans jamais être vulgaire, elle nous tient en haleine en tout cas, ça je peux vous le dire, avec ses histoires à dormir debout, et toujours cette voix de femme qui aurait trop bu, et qui est en effet le fil rouge du spectacle.
Non, je me dis heureusement que j'ai choisi ce métier, imaginez si j'avais voulu être un truc un peu sérieux, tu vois, je sais pas, par exemple, avocate, chaud pour trouver des clients quand même, hein. Et genre je dis à mon client sourd, ne vous inquiétez pas, on va le gagner, ce procès. Le mec comprend, t'inquiète Roger, il y a du rosé au frais.
Je vous sens un peu dubitatif.
Ouais, non mais elle est curieuse. Vous savez qu'elle a fait 3 arrêts cardiaques ?
Ah oui,
elle s'est remise 3 arrêts cardiaques. Oui, oui. Donc je pense que quand on passe par ça, c'est autant de résurrections.
Non mais c'est vrai, elle raconte toutes ses résurrections effectivement dans son spectacle, c'est vrai. Elle a la même audace, hein, on le voit, la même autodérision que Blanche, et elle joue aussi de son célibat.
Vous savez, moi, à cause de cette voix, j'ai décidé de ne pas avoir d'enfant. Non, c'est bon, si c'est pour entendre toute la journée picoler dans votre état, mais quelle honte ! 9 mois de ça ! 9 mois de jugement, tout ça pour qu'au final, mon fils m'appelle papa ? Non.
Et alors, c'est vrai que le public ressort de là hilar, on rit beaucoup, et on est ému aussi, écoutez.
Oui, sa voix et son humour un peu noir, un peu cru, c'est marrant.
Ouais, un peu trash. Elle n'a pas peur de dire des choses qui sont horribles, mais elle est tellement mignonne en plus que ça passe bien.
Ça passe
quoi.
Bien, ouais. C'est ça.
J'adore sa gouaille. C'est rare de mettre de la tendresse là où il y a souvent de la violence. Elle est loquace et puissante, cette petite femme qui semble fragile.
C'est vrai qu'elle est très attachante.
Ouais. Ouais, alors j'ai lu aussi qu'elle avait été gogo danseuse, barmaid, dame pipi. Donc effectivement, elle a eu plusieurs vies, cette nana.
Elle raconte tout ça, elle dit qu'elle a même doublé en allemand des films porno. Enfin,
elle a vraiment tout fait.
Elle est incroyable. Ouais.
D'où cette aisance incroyable sur scène.
Ah oui, elle est elle-même en fait. Et
Bon, bah écoutez, ça fonctionne très bien.
Et
vous
sa nouvelle drogue, on peut le dire, c'est le public, c'est la scène. Elle a trouvé son truc et c'est vrai que voilà, elle ne manque pas de talent, ça c'est évident. Oui, j'ai beaucoup ri. Et puis on est suspendu à ses lèvres, vous voyez. Donc non, mais en plus, bon, je l'ai vu dans une salle petite, hein, le point virgule, c'est tout petit. Donc voilà, j'étais au premier rang. Et c'est vrai que voilà, moi, je bois les paroles de ces artistes qui me font rire et qui ont des choses à dire.
Oui, tout à fait. Mais voilà, c'est ça le monde qui change. C'est ces nouveaux humoristes, c'est des nanas comme ça, à la fois cabossées,
exactement,
et complètement vivantes et imprégnées.
C'est le monde qui change. C'est ces femmes humoristes, hein, voilà, qui font du stand-up, qui parlent d'elles, de manière assez crue, mais de manière intelligente. Exactement. Vous voyez, elles sont brillantes, ces filles.
Merci, comme vous, Diane.
Bah voilà. Merci,
alors,
c'est gentil.
Du coup, admettons, aussi, c'est le nom du spectacle de Douli jusqu'à fin juin, au point virgule.
Absolument, Nathalie. Merci. Vous avez tout compris. Vous saisissez tout de suite ce que je vous dis. C'est ça qui est génial.
Ça va bientôt monter sur scène.
Restez tant que vous voulez.
Et Nathalie Lévy, juste avant de retrouver Lionel Rousseau et la grande soirée foot d'Europe 1, on va parler un peu musique aussi ce soir avec la playlist du 18-20. Qu'est-ce qu'on s'écoute ?
Oxmo Puccino.
Très bien.
Et il signe tendrement.
À part les exceptions, les autres sont victimes. Les hommes, bon, ce n'est pas que dans les films. On n'a pas tous les mains qui traînent, je l'ai dit à ma fille. Et si ça t'arrive, il faut qu'ils comprennent. Certains font de leur mieux, tu sais que j'existe. Je me battrai jusqu'à ce que ça suffise. Seul on touche aucune prouesse. Derrière un grand homme, il y a toujours une déesse. Entre nos femmes, nos filles et nos mères.
Ah oui, les femmes qui sont encore célébrées, hein, grâce à Oxmo Puccino, sorti à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. C'était dimanche. Oxmo Puccino avec l'association La Maison des Femmes qui nous livre cette déclaration d'amour à toutes les femmes.
Et ça s'appelle Tendrement sur Europe 1. Et c'est parti pour le foot, Nathalie Lévy.
Alors là, on change quand même d'ambiance.
Grosse soirée, là.
Alors, grosse soirée, mais l'ambiance, on verra. Si, autour de Lionel Rousseau, ambiance assurée pour ce huitième de finale retour dans Ligue des Champions.
Oh là,
PSG Dortmund.
L'ambiance est là.
Ah, chez vous, elle y est, c'est sûr.
Il y a plus de monde dans votre public qu'au Parc ce soir.
Pas de huis clos sur Europe 1 ce soir. Et l'ambiance, comme au Parc des Princes, quand il est rempli. Avec le public, les auditrices et les auditeurs d'Europe 1, en effet, qui sont là dans le studio Belmar pour assister au match avec le commentaire de nos journalistes, le service des sports mobilisés, nos experts, pour ce grand match très attendu, avec déjà des mauvaises nouvelles pour le Paris Saint-Germain et notamment Mbappé sur le banc. On va en parler dans quelques instants, mais grosse, grosse soirée avec notre public. L'ambiance est ici.
Exactement.
C'est sur Europe 1.
Il n'y a pas à réfléchir. C'est chez vous qu'on est ce soir, Lionel Rousseau.
Vous savez qu'il y a une devise, hein ?
Ouais.
En huis clos, on écoute la radio.
Ouais.
C'est, non, c'est une devise.
C'est récent.
Vous gardez.
C'est pas mal.
C'est récent, ça date d'il y a 3 secondes. Hein.
Allez, salut Lionel Rousseau. À vous l'antenne. Merci Anissa. On adore. Et on se retrouve demain ici même, 18h-20h, pour votre grand journal du soir. En écoutant assurément Le Monde changer. Merci de votre fidélité. Théo Menval pour l'info.
Bonne soirée. C'était Nathalie Lévy sur Europe 1.